18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour deux heures d'information, d'analyse, de débat, d'invités également et prestigieux, vous allez comprendre, c'est votre grand journal du soir. Dans un instant, c'est l'info avec vous, Isabelle Millet, bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
À la une ce soir, ce face-à-face tendu entre policiers et pompiers à Paris. Nous sommes sur place dans le cortège dans un instant et pour essayer aussi de comprendre leurs revendications. 18h20, Donald Trump présente dans quelques secondes son plan de paix pour le Proche-Orient. Ce plan est-il déjà mort-né? Je poserai la question à mon invité en studio. L'ex-ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Haro, sera là en direct à 18h20. 19h30, l'avez-vous remarqué, de plus en plus de salles de sport réservées aux femmes, des zones réservées? Est-ce un effet MeToo? On en débat ce soir avec mes invités. Et puis toutes les sorties ciné avec Mathieu Charrier, c'est 19h45 avec Lambert Wilson qui sera également en direct avec nous. On est ensemble jusqu'à 20h pour écouter aussi Le Monde Changé. C'est parti.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
On est là pour la prime de risque qu'on demande depuis 7 mois quand même, pour les retraites, pour les agressions. Parce que de plus en plus, on se fait agresser. On se rend compte qu'à cette heure-ci, notre métier est oublié.
Pompiers et policiers face à face, une fin de manifestation sous tension cet après-midi européen au cœur de la colère des soldats du feu.
Comment va s'organiser le rapatriement des Français de Wuhan, berceau de l'épidémie du coronavirus? On commence à y voir plus clair.
Le satisfecit du ministre des Comptes publics, le bilan de la première année de mise en place du prélèvement de l'impôt à la source est plus que satisfaisant et ça sera encore plus facile l'an prochain.
Pour 14 millions de foyers fiscaux, ils n'auront plus à renvoyer leur feuille de déclaration de revenus.
Un as du marketing, bientôt au volant de Renault, l'italien Luca de Meo, francophone et polyglotte, nommé directeur général.
Et puis Donald Trump qui dévoile, je vous le disais, son plan de paix incessamment là, pour le Proche-Orient, sans grand espoir. Hein, malheureusement, on sera aux États-Unis avec Xavier Yvon et on en parle dans les grandes voix.
Avec Federer, tout est possible. Le Suisse l'a encore prouvé aujourd'hui en sauvant 7 balles de match. Il est en demi-finale à Melbourne.
Quand tu sauves 7 balles de match, honnêtement, tu ne contrôles plus rien. Essaie de prendre de bonnes décisions au bon moment, tu te bats comme un fou.
Et puis Madonna va-t-elle flancher? Elle annule plusieurs concerts, blessée au genou. Pour l'instant, en tout cas, les rendez-vous parisiens sont maintenus. La Bourse de Paris, elle a terminé ce soir sur un rebond de 1,07% à 5 925 points.
Et la météo, c'est avec Anissa. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Alors on l'attendait, elle arrive demain. Une légère amélioration avec un peu plus de soleil. Alors attention, c'est une amélioration temporaire. Ça ne va pas durer, on va essayer d'en profiter. À l'est, le temps reste gris. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Isabelle Millet.
Sirènes, pétards et casques chromés, les pompiers dans la rue donc ce mardi, très en colère.
Après 7 mois de grève, ils ont l'impression tout simplement de ne pas être entendus. Eux qui risquent leur vie au quotidien, vous les avez suivis dans la manifestation parisienne, Élise Dangean.
Et vous êtes en direct avec nous, Élise, des pompiers venus de toute la France qui réclament notamment la revalorisation de ce que l'on appelle la prime de feu. Elle n'a pas bougé cette prime depuis 30 ans, mais leurs revendications vont au-delà de cette prime, Élise.
Et oui, les pompiers en ont plein les bottes. C'est l'un des messages inscrits sur leur veste de feu dans cette manifestation très sonore, pyrotechnie oblige, mais aussi sapeurs-pompiers en colère, découragés, méprisés. Les termes sont forts et les colères sont nombreuses, rappelle Sébastien, pompier dans les Vosges.
On est là pour la prime de feu finalement, la prime de risque qu'on demande depuis quelques temps, depuis 7 mois quand même. De plus, on est là aussi pour les retraites, parce que comme tout le monde, on est impacté. Troisième chose, on est là pour les agressions, parce que de plus en plus, on se fait agresser. Et on se rend compte qu'à cette heure-ci, notre métier est oublié.
Alors ce qui remonte beaucoup, eh bien, c'est la perte de sens du métier avec une hausse importante du nombre d'interventions. Plus de social, moins de missions d'urgence, résume Franz Rousseau. Il est le secrétaire départemental de l'UNSA des SDIS de Meurthe-et-Moselle.
Nous, en Meurthe-et-Moselle, on est passé en 8 ans de 36 000 interventions à 50 000 interventions. Avec 9000 interventions, 9000 carences en fait, ce sont 9000 départs qu'on ne devrait pas effectuer. Par exemple du relevage de personnes âgées, des personnes ne répondant plus aux appels. Le problème c'est que si nous on ne fait pas ces missions, personne d'autre est en capacité de les effectuer aujourd'hui.
Et les pompiers le savent, personne ne se mobilisera à leur place. Ils le promettent, le mouvement n'est pas prêt de s'arrêter.
Merci Élise Dangean, en direct de la manifestation parisienne des pompiers cet après-midi.
Et ce face-à-face tendu, on le décrypte dès 18h30 avec les grandes voix, ces scènes dans Paris, notamment de face-à-face entre policiers et pompiers.
L'épidémie de coronavirus, l'Allemagne a signalé aujourd'hui un premier cas de contamination sur son sol. Il s'agit d'un homme de 33 ans qui a été contaminé par une collègue de travail qui rentrait de Chine. Et on commence par ailleurs à avoir des détails sur le rapatriement des Français de Wuhan. Bonsoir Victor Delande.
Bonsoir.
Deux avions seront donc spécialement affrétés avec à leur bord 250 ressortissants français.
Oui, un premier avion qui décollera donc de Paris demain direction Wuhan. Il repartira de la ville berceau de l'épidémie jeudi soir. Arrivé à Paris prévu pour vendredi, à son bord, tous les ressortissants français qui ne présentent aucun symptôme. Et dès qu'ils fouleront le sol français, on le sait, ces personnes seront placées à l'isolement pendant 14 jours. Deux semaines, c'est en fait l'estimation de la période d'incubation du coronavirus. Et dans un deuxième vol, la France rapatriera les personnes possiblement porteuses du virus. Des personnes qui ont des symptômes jugés donc à risque. Ces personnes seront médicalisées dès leur arrivée en France. Au total, ce sont donc 250 ressortissants français qui seront triés dans deux vols pour ne pas prendre de risque avec la propagation du virus, nous expliquons au ministère de la Santé.
Merci pour ces toutes dernières précisions, Victor Delande. Il avait fait couler beaucoup d'encre avant son entrée en vigueur et suscité de nombreuses interrogations.
Un an plus tard, le prélèvement de l'impôt à la source s'avère être, un succès.
Et oui, jamais en effet, Bercy n'avait été aussi efficace dans la collecte de l'impôt, Carole Ferry.
Oui, effectivement, avec un taux de recouvrement de 99,1%, un taux record, ça veut dire que quasiment plus personne n'échappe au paiement de l'impôt. En fait, le prélèvement à la source a permis aux services fiscaux d'être beaucoup plus efficaces dans la lutte contre la fraude ou la phobie administrative. Ça a ainsi permis de récupérer 1 milliard d'euros avec un système finalement plus simple pour les contribuables. Et Bercy veut aller encore plus loin cette année dans la simplification avec la déclaration de revenus automatique, comme l'explique le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin.
Pour 14 millions de foyers fiscaux, ils n'auront plus à renvoyer leur feuille de déclaration de revenus. C'est l'administration qui fera son travail. Elle a déjà beaucoup avancé avec la déclaration pré-remplie. Mais maintenant, elle sera envoyée pour information aux Français. S'il y a une erreur, il peut toujours en avoir une. Et donc, vous devez renvoyer ce papier. Et s'il n'y a pas d'erreur, il suffit de ne rien faire. Qui ne dit mot consent. C'est à la fois nécessaire et pas toujours très agréable de remplir sa déclaration de revenus. Je pense que chacun voit ce que je veux dire. C'est un grand service que rend le service des impôts aux Français.
Alors, ça concerne les déclarations de revenus simple, avec un salaire et un crédit d'impôt pour l'emploi d'une femme de ménage, par exemple. Ça ne marche pas, en revanche, quand les informations échappent à l'administration fiscale. C'est le cas du crédit d'impôt dont vous bénéficiez quand vous faites un don aux associations. Bercy voudrait que ça change. Il y aura un test l'an prochain. Ça permettrait par ailleurs de déduire immédiatement de ses impôts la part défiscalisable de ses dons. Le dispositif est en cours de réflexion.
À suivre donc. Merci Carole Ferry du service économie d'Europe 1.
Europe 1. Votre grand journal du soir avec Isabelle Lillet et Nathalie Lévy.
À suivre dans cette édition de 18h, on vous dit tout. Tout sur le nouveau patron de Renault, un Italien.
Et puis on vous dit tout également sur le plan de paix pour le Moyen-Orient que Donald Trump est en train en ce moment de présenter.
2 heures d'infos pour voir le monde changer, c'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Europe 1. 18h08 sur Europe 1, la suite du journal avec Isabelle Millet et Nathalie Lévy.
Renault, Isabelle, Renault vient de révéler l'identité de l'homme qui va succéder à Thierry Bolloré. C'est un Italien qui prend les commandes de la marque aux losanges.
Et oui, ça y est, c'est fait. Bonsoir Aurélien Fleureau.
Bonsoir.
Le conseil d'administration de Renault vient tout juste de valider cette nomination de Luca de Meo. Alors dites-nous en plus Aurélien, c'est plutôt une belle prise en tout cas pour Renault.
Oui, d'abord parce qu'il correspond en tout point au profil qu'avait dressé Jean-Dominique Senard, le patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Pour relancer Renault, pour marquer définitivement l'après-Gaune, il fallait une pointure et avec Luca de Meo, l'objectif est atteint. Réputation de visionnaire, auréolé de très bons résultats chez Seat depuis 4 ans, décrit comme charismatique, souriant. À 52 ans, il est déjà passé par Renault au tout début de sa carrière, puis Toyota, Fiat également, où il a notamment relancé la Fiat 500. Et puis surtout, il est reconnu pour ses qualités de management, humain, collectif, fibre sociale. Voilà ce que souhaitaient les salariés, échaudés pour certains par la période de Gaune puis Bolloré. Et le défi pour Luca de Meo, ce sera de faire parler de Renault non plus pour des raisons médiatico-judiciaires liées à l'affaire Gaune, mais plutôt pour des innovations, des lancements de produits, des avancées sur la voiture électrique, sur la voiture autonome, les grands sujets de l'industrie automobile pour les mois et les années qui viennent. Et puis évidemment, il aura pour mission de refaire travailler les équipes de Renault avec celles de Nissan, continuer le travail de reconstruction de l'Alliance. Et pour ça, il prendra ses fonctions à partir du 1er juillet prochain.
Et donc, on dit Luca de Meo, puisque c'est un Italien. Merci Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
Le groupe Total a signé pour une action climatique. C'est la première action de ce genre intentée contre une entreprise française.
À l'origine, 5 ONG ainsi que plusieurs communes de France qui veulent contraindre la multinationale à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, alors que le groupe figure parmi les 20 plus gros pollueurs au monde. De son côté, Airbus a trouvé un accord avec le parquet national financier, accord qui va permettre à l'avionneur d'échapper à un procès pour corruption. En échange, il devra payer des pénalités qui s'annoncent corsées. On parle de 3 milliards de dollars.
Donald Trump n'hésite pas à parler de l'accord du siècle à propos du plan qu'il est en train de présenter là ce soir depuis Washington. Plan censé régler, je dis bien censé, hein, régler le conflit israélo-palestinien.
Oui, parce que dans les faits, on en est encore très loin. Ce plan a d'ailleurs été établi sans la moitié des interlocuteurs puisqu'il n'y a pas eu de pourparlers avec les Palestiniens. Bonsoir Xavier Yvon.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis en direct. Donc ça se passe en ce moment, Xavier, à la Maison-Blanche, Donald Trump avec Benjamin Netanyahou.
Ah oui, les deux hommes viennent à l'instant de s'installer au pupitre dans la salle de la Maison-Blanche qui est remplie d'invités. Et les médias américains commencent à révéler les grandes lignes de ce plan. Alors il prévoit la création d'un État palestinien avec certaines parties de Jérusalem Est comme capitale. On ne sait pas exactement lesquelles, s'il y a par exemple la vieille ville. Donc une solution à deux États, il y avait un doute là-dessus. Avec un territoire sous contrôle palestinien deux fois plus grand qu'actuellement, mais un maintien des principaux blocs de colonies sous souveraineté israélienne. Tout ça va être développé là dans un instant par Donald Trump qui est en train de prendre la parole. Le grand absent à ses côtés, c'est évidemment Mahmoud Abbas qui ne sera pas sur la photo. Les Palestiniens ne parlent plus à l'administration Trump. Ils ont d'ailleurs rejeté d'avance ce plan qu'il sait on va favoriser les aspirations israéliennes, notamment une carte des nouvelles frontières qui inclut la vallée du Jourdain dans l'État hébreu, une partie stratégique de la Cisjordanie. Les Palestiniens, eux, se verront promettre un déluge de dollars, 50 milliards d'aides. Avec cet énorme chèque, Donald Trump est sûr, dit-il, qu'il aura au bout du compte le soutien des Palestiniens. C'est presque trop bien pour eux, avait-il dit hier. Ça fait 3 ans que son gendre Jared Kushner travaille sur ce fameux deal. Et la stratégie, c'est d'inclure les pays arabes de la région pour qu'ils fassent pression sur les Palestiniens afin qu'ils acceptent ce plan. D'ailleurs, les ambassadeurs des Émirats et de Dubaï sont en ce moment dans la salle en train d'écouter Donald Trump qui est en train de parler.
Merci beaucoup Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 en direct donc des États-Unis.
Voilà, alors Donald Trump qui se rêve en faiseur de paix. On en reparle dans quelques minutes avec l'ex-ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Haro, mon invité hein, ce soir dans ce studio. Une actualité sportive maintenant chargée, Isabelle.
Effectivement, avec un nouveau sélectionneur pour les Bleus du handball. Guillaume Gilles remplace Didier Dinard écarté. Il va avoir la délicate mission de qualifier la France pour les JO de Tokyo. C'est dans moins de 3 mois. En foot, un retour, celui du Français Ben Arfa, qu'on n'a plus vu sur les terrains depuis son départ de Rennes en juin dernier. Il a enfin trouvé un port d'attache. Ce sera Valladolid, en Espagne, propriété d'un certain Ronaldo, l'ancienne star brésilienne. Ce soir, on suivra les premiers huitièmes de finale de la Coupe de France. Angers-Rennes, Belfort-Montpellier, Limonest-Dijon à partir de 18h30 et puis Monaco-Saint-Etienne, ce sera à partir de 20h55.
Et puis on change complètement de terrain. Un miraculé, un surhomme, un phénix, on ne sait plus comment l'appeler.
Incroyable, survivant, Roger Federer. Il a sauvé 7 balles de match ce matin face à l'Américain sans graines et se qualifie pour les demi-finales de l'Open d'Australie.
Surtout beaucoup, beaucoup de chance quand tu sauves 7 balles de match. Honnêtement, tu contrôles plus rien. Alors tu essaies juste de rendre les choses les plus difficiles possibles à l'adversaire. Tu te bats comme un fou, tu essaies de rester calme, essaies de prendre les bonnes décisions au bon moment. À ce point-là, il faut surtout pas rater. Alors en tout cas, c'était un match énorme pour moi. Je me réjouis forcément comme un gamin que je suis quand même en demi-finale de nouveau ici en Australie. Et maintenant, on verra comment je me sens le lendemain ou le jour d'après.
Federer qui affrontera Djokovic en demi-finale. Ce sera vendredi. Il était au micro de Georges Omsi à Melbourne pour Europe 1.
Alors elle aussi, habituellement, elle fait le show comme personne. Oui. Mais cette fois-ci, ça s'annonce un peu plus compliqué. Madonna, la chanteuse, est blessée.
Et oui, elle souffre du genou, Madonna. Elle a dû annuler plusieurs dates de sa tournée. Alors on est un peu inquiet parce qu'elle doit théoriquement se produire en France, au Grand Rex, à Paris, pour 14 dates, du 22 février au 11 mars, concert qui... pour l'instant, sont maintenus. On espère qu'on pourra entendre Papa Don't Preach.
Mais bien sûr, on espère l'avoir bougé, dansé, interprété tous ses titres. Et oui, je connais Madonna, évidemment, parce que certains encore me défient sur le terrain musical. Merci Isabelle Millet.
À tout à l'heure.
Retour de l'info à 18h30 avec vous, Anissa. Bonne nouvelle, une accalmie pour demain.
Oui, oui. Alors attention, Nathalie, pas de fausse joie. Elle est temporaire, hein, cette accalmie. Nous allons tout de même essayer d'en profiter demain. Écoutez bien, je vais parler de chez vous. La journée commence sous les nuages et les premières éclaircies arrivent très tôt par l'ouest. Donc si vous nous écoutez en Bretagne, en Normandie et dans le Nord, pour vous, la journée sera belle du matin jusqu'au soir demain. Au fil des heures, le soleil va s'imposer sur une moitié ouest du pays, des Ardennes jusqu'au Pays Basque. Là, les éclaircies sont en rendez-vous, donc vous passerez dans toutes ces régions à l'ouest une belle journée. À l'est,
c'est autre chose. De l'Alsace à la vallée du Rhône, malheureusement, ce sont des mauvaises nouvelles que j'ai à vous annoncer, puisque vous allez passer la journée sous les nuages. Une journée qui sera ponctuée d'averses, de giboulées. Sur les Vosges, le Jura, les Alpes et le Massif central, c'est la neige qui tombe. Elle est toujours là, au rendez-vous. Avec sur les Alpes, attention, un risque d'avalanche assez élevé. Sur les côtes de la Manche, les Alpes, c'est le vent d'ouest qui souffle fort. Et attention, demain, alors là, c'est pour nos auditeurs corses. Demain et cette nuit, sur le Cap Corse, on attend des rafales de vent jusqu'à 150 km/h. Donc très grande prudence sur le Cap Corse demain. Les températures, 0 à Annecy demain matin, 2 à Lille et Sochaux, 5 à Lyon, Perpignan et Paris, 10 à Nice. Demain après-midi, nous aurons 6 à 18 degrés, 10 pour la capitale, 12 à Brive-la-Gaillarde, 16 à Fréjus et 18 à Nice.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec votre invité dans un instant, Nathalie Lévy.
Oui, parce que ça se passe en ce moment où nous parlons. Le plan de paix au Proche-Orient présenté à Washington par Donald Trump. Un plan déjà mort-né. À quoi joue le président américain? Mon invité dans un instant, l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis jusqu'en juin dernier, Gérard Araud, dans ce studio pour répondre à toutes mes questions.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy. Alors que Donald Trump se rêve en faiseur de paix au Proche-Orient, vous recevez, Nathalie, ce soir, l'ex-ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Araud. Il est l'auteur de Passeport diplomatique aux éditions Grasset.
Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup d'être avec nous. Également ancien ambassadeur en Israël et puis à l'ONU avant d'être ambassadeur aux États-Unis. Passeport diplomatique, effectivement, aux éditions Grasset. On va en parler dans un petit instant. Mais parce que cela se passe en ce moment même, à Washington, Donald Trump présente à l'heure actuelle avec Benjamin Netanyahou à ses côtés le plan de paix pour le Proche-Orient, un plan de paix qui a été travaillé par son gendre Jared Kushner pendant plus de 2 ans. Il livre là, à l'heure actuelle, à peu près le contenu de 80 pages. Et je voudrais qu'on aille directement, si vous le voulez bien, sur le premier point. Il est dit qu'il y est question d'une création d'un État palestinien avec certaines parties de Jérusalem-Est, même si pour l'instant on ne sait pas lesquelles. Et il parle d'une solution à 2 États.
Oui, d'abord, Jared Kushner a travaillé depuis maintenant plus de 2 ans sur ce plan. Et il a été très attentif à ne jamais révéler, même aux ambassadeurs, mais même aux ministres, quel était le contenu du plan. Donc, ce qu'on a deviné, c'est un État palestinien, voilà, dont la capitale serait sans doute certains quartiers de Jérusalem-Est, sans doute ceux qui sont au-delà de la barrière. Par ailleurs, vous savez, comme tout le territoire de la Cisjordanie est mité des colonies israéliennes, apparemment les colonies israéliennes resteraient en place, ce qui voudrait dire qu'on aurait un État qui prendrait la forme, il faut bien dire, d'une sorte de peau de léopard, avec les Israéliens en plus restant sur le Jourdain pour assurer leur sécurité.
Donc dans la formulation, ça semble bien là, quand on vous pose la question, mais en fait le résultat, on est très loin du compte. Vous allez nous dire sans doute quoi? Que les Israéliens peuvent saluer, mais les Palestiniens ne pourront jamais accepter un tel plan, non?
Alors tout d'abord, comme vous le savez, il y a là derrière une manœuvre électorale, puisque Benjamin Netanyahou vient juste d'être inculpé par la justice israélienne, qu'il a sans doute des difficultés pour les prochaines élections. Trump vient à son secours en lui offrant ce plan, qui est sans doute le plan le plus pro-israélien qu'on ait jamais imaginé à Washington. Un plan, il faut aussi savoir que l'administration américaine ne parle plus aux Palestiniens depuis 2 ans. Donc il est sans doute probable que les Palestiniens vont refuser ce plan.
C'est une volonté de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou donc de s'entraider, c'est ce qu'on doit lire là-dedans, parce que Benjamin Netanyahou, vous l'avez dit, vous avez rappelé sa problématique, et puis Donald Trump, il y a le procès, évidemment, à l'heure actuelle, l'impeachment. Donc chacun, dans ses difficultés, essaye de s'entraider?
Sans doute, mais c'est sans doute beaucoup plus du côté de Netanyahou. Netanyahou est un proche de la famille Kushner, par exemple, et notamment donc de Jared Kushner.
Notre ancien ministre des Affaires étrangères.
Donc Netanyahou est proche de la famille Kushner. L'ambassadeur des États-Unis à Jérusalem est lui-même un proche du Likoud. Il y a là, je crois, un axe entre les Républicains et le Likoud qui est en train de s'exprimer.
Un mot quand même du volet économique de ce plan. 50 milliards de dollars qui pourraient être investis par les États-Unis dans ces territoires palestiniens sur 10 ans. Est-ce que cela, ça peut faire sens? Est-ce que cette enveloppe peut
être entendu par les Palestiniens. D'ailleurs, les pays arabes sont invités là ce soir à Washington, mais pas les Palestiniens.
C'est une des questions qu'on doit se poser, c'est les Palestiniens. D'abord parce qu'ils ne sont plus vraiment représentés par l'autorité palestinienne, qui est vieille, accusée de corruption, qui a perdu les élections en 2006. Et une population palestinienne qui ne se fait plus beaucoup d'illusions sur ce qu'elle va obtenir. Et je pense que le calcul de Kouchner et le calcul de Trump, c'est d'essayer de dire, ben voilà, ce qu'on vous offre n'est pas bien beau, mais en plus, vous allez avoir une manne financière extraordinaire. Et c'est le mieux que ce que vous pouvez espérer.
Qui peut y croire ? Qui peut y croire ?
Ça dépend à quoi croire. Croire à la solution politique, sans doute, il n'y a pas grand monde, mais la solution économique peut tenter la population palestinienne.
Donc pour vous, ça peut ne pas être perçu comme une provocation et mettre le feu aux poudres, attiser encore plus la colère au Proche-Orient ?
Je ne sais pas. Au Proche-Orient, certainement pas. D'accord. Parce qu'au Proche-Orient, pour les pays arabes, la priorité n'est absolument pas la question palestinienne. La priorité, c'est la menace iranienne. Vous avez quasiment une alliance de fait entre Israël et les monarchies du Golfe. En Palestine même, l'autorité palestinienne, j'en suis à peu près sûr, dira non. La population palestinienne, qui ne se fait plus beaucoup d'illusions, je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas si elle ne rêve pas, elle ne peut pas essayer de penser à l'État unique. L'État unique entre le Jourdain et la mer Méditerranée. Mais cela, évidemment, à la condition que les Palestiniens obtiennent des droits politiques.
Donc pas de nature, a priori, à mettre le feu aux poudres, c'est ce que vous nous dites. Alors, il y a ce procès dans le même temps en destitution de Donald Trump qui se poursuit. Son acquittement, il semblait acquis grâce à la majorité républicaine du Sénat. Mais est-ce que, parce qu'il y a les révélations là désormais explosives d'un ex-conseiller à la sécurité, John Bolton, sur toujours ses liens Ukraine et l'enquête Joe Biden, est-ce que c'est de nature à faire changer la donne ?
Non, je ne pense pas.
Pas du tout ?
Je ne pense pas parce que les républicains ont déjà préparé leur deuxième ligne de défense. Leur première ligne de défense, c'était de dire, circuler, il n'y a rien à voir, on fait bloc derrière le président, cette accusation est fausse. La deuxième ligne de défense, c'était de dire, ah mais même si elle est vraie, c'est-à-dire même si il est intervenu auprès du président ukrainien, ce n'est pas une faute d'un niveau qui doivent conduire à la destitution. Et d'ailleurs, il y a eu des élections qui viennent en novembre. Ce sera aux électeurs américains de trancher.
La sentence, elle sera là. La sentence, sincèrement, est-ce qu'elle sera là d'ailleurs le 3 novembre ? Est-ce que finalement ce procès, est-ce qu'il perturbe les Américains véritablement ? Est-ce qu'ils entendent ça aujourd'hui ? Est-ce que ça peut avoir un impact sur la campagne ?
C'est ça la question. Au fond, le calcul des démocrates. Les démocrates ont toujours su que la destitution ne serait pas voté par le Sénat, mais sans doute veulent-ils envoyer un message auprès, je dirais, des centristes républicains ou qui hésitent à voter en leur disant « Vous voyez bien, ce type, il est vraiment épouvantable, il est vraiment corrompu. » Mais ça peut jouer dans l'autre sens, comme à l'époque de Clinton, où Trump peut dire « Je suis un martyr, l'establishment veut ma peau. »
Oui, c'est ça. Alors, dans votre livre « Passeport diplomatique » aux éditions Grasset, Gérard Haro, évidemment, vous racontez Donald Trump avec votre regard, la manière dont vous l'avez abordé. Depuis 3 ans, on a le sentiment que Donald Trump a traversé toutes les épreuves. Vous nous dites qu'il avance peut-être vers sa réélection aujourd'hui. On verra ça, évidemment. Mais vous dites surtout « Le monde ne sera plus le même après Trump », page 363. Pourquoi ?
Tout d'abord parce qu'il a déjà transformé les États-Unis. Il a trumpifié le Parti républicain. C'était un parti qui était libre-échangiste pour une intervention internationale, etc. C'est devenu un parti protectionniste, nationaliste, identitaire. Et cela ne disparaîtra pas. Ne nous faisons pas d'illusions. D'une certaine manière, le protectionnisme est de retour et le libre-échangisme est mort. Et c'est déjà un élément important. Et il incarne, comme Obama, ça avait commencé sous Obama, il incarne la fatigue, la lassitude des Américains pour les engagements internationaux. On l'a vu en Ukraine, on l'a vu en Syrie et on le voit en Libye.
Parce que vous avez aussi soutenu Emmanuel Macron, que vous le connaissez bien. Le rapport Donald Trump-Emmanuel Macron, quel est-il aujourd'hui ? Est-ce que Emmanuel Macron sait parler le langage trumpien ?
Vous savez, lorsqu'on est président de la République française, quel que soit le nom du président, on est obligé d'avoir une bonne relation avec le président des États-Unis, l'homme le plus puissant du monde. Mais en plus, aujourd'hui, à Washington, il n'y a qu'une personne qui décide, c'est Donald Trump. Et donc, le président français est obligé très souvent d'appeler Donald Trump pour essayer d'obtenir des informations ou pour essayer d'infléchir les positions de Donald Trump.
Ils sont aux antipodes sur l'Iran, sur le climat.
Ils ne s'accordent sur rien et ils sont très francs dans leur échange. Mais vous savez, Trump, c'est aussi un homme d'affaires dans l'immobilier new-yorkais. Il a l'habitude de langage viril et il accepte tout à fait que Emmanuel Macron lui dise non et Emmanuel Macron lui dise souvent non. Mais de nouveau, moi, Paris m'a appelé en me disant que vont décider les États-Unis et j'étais obligé de répondre « je n'en sais rien ». Et parce que personne ne le sait, il n'y a qu'un homme qui le sait, c'est Donald Trump. Et donc, il faut que le président de la République l'appelle.
Juste une dernière question. Est-ce que Donald Trump a du respect ou de la considération pour Emmanuel Macron et au-delà même pour d'autres dirigeants étrangers?
Vous savez, alors, d'une certaine manière, ce n'est pas la faute d'Emmanuel Macron, mais Donald Trump, d'abord, est un machiste, il faut bien dire. Donc, pour lui, et en plus, il a dit un jour, parlant d'Emmanuel Macron, « you are a winner », vous êtes quelqu'un qui gagne. Donc, j'imagine que c'est une expression
de respect. Pour le moins. Merci beaucoup, Gérard Haro, d'être venu ce soir nous voir. Passeport diplomatique, 40 ans au Quai d'Orsay, aux éditions Grasset. Merci beaucoup.
À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Le rappel des titres dans un instant. Dans la foulée, le débat des grandes voix. Les pompiers sont en colère. On va voir toutes ces images.
Et vous pouvez participer au débat des grandes voix en appelant le 39-21. Dès maintenant, votre grand journal du soir, jusqu'à 20h. 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Nathalie Lévy.
Votre rappel des titres, Isabelle Millet.
Et à l'instant, un quatrième cas de coronavirus confirmé en France. C'est ce qu'annonce le directeur général de la Santé, a priori à Paris. Alors qu'on commence à en savoir un peu plus sur le rapatriement des Français de Wuhan, deux avions seront spécialement affrétés pour les volontaires, au moins 350 Français en tout, et 100 ressortissants européens. Et à l'arrivée, tout le monde sera placé en quarantaine. Donald Trump présente en ce moment son plan de paix pour le Moyen-Orient, salué par Israël, mais rejeté d'ores et déjà par les Palestiniens. Annonce solennelle depuis la Maison-Blanche en présence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le président américain évoque une solution réaliste à deux États. Une chance historique, selon lui, pour les Palestiniens d'obtenir un État indépendant. Il assure que Jérusalem restera la capitale indivisible d'Israël. Quand les pompiers sont en colère, ça fait du bruit. Fin de manifestation sous tension cet après-midi à Paris, face à face parfois tendue avec les forces de l'ordre. Des pompiers qui s'inquiètent aussi pour leur retraite et réclament davantage de reconnaissance. Et puis un nouveau patron pour Renault. Le constructeur automobile recrute l'ancien patron de Seat, Luca De Meo, comme directeur général pour tenter de se relancer, pour donner un nouveau souffle à son alliance avec Nissan et Mitsubishi.
Et le temps, c'est avec vous, Anissa. Encore du vent demain, Isabelle. On vous retrouve à 19h, bien sûr.
Oui, effectivement. La journée de demain sera agréable, mais il y a toujours beaucoup de vent au sud, au bord de la Méditerranée, sur les côtes de la Manche, sur les Alpes. Le vent d'ouest souffle entre 60 et 80 km/h demain. C'est sur le Cap Corse qu'on va garder un œil très vigilant. Parce que sur le Cap Corse, cette nuit et tôt demain matin, on attend des rafales jusqu'à 150 km/h. Donc évidemment, ne vous baladez pas en bord de mer demain matin sur le Cap Corse et soyez extrêmement prudents. Alors vous le disiez Nathalie, la journée de demain s'annonce un peu plus calme avec d'abord en début de journée à l'ouest sur la Bretagne et la Normandie de belles éclaircies. Et puis ces éclaircies elles vont se généraliser sur une moitié ouest demain à l'est de la France. Là c'est très nuageux, très agité avec des giboulées et de la neige sur les reliefs. Les températures 1 à 4 degrés sur le Grand Est, 3 à 7 en général et 8 à 10 degrés demain matin sur l'Atlantique et le littoral méditerranéen.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir Nathalie Lévy avec jusqu'à 19h, le débat des grandes voix. Vous pouvez y participer, évidemment, en nous appelant au 39-21 en direct ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Ce soir, autour de vous, Nathalie, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Alexandre Malafaille, président fondateur du think tank Sinopia.
Bonsoir messieurs, bienvenue.
Bonsoir.
Bienvenue évidemment pendant une demi-heure. On va regarder d'abord et plutôt essayer de comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui dans les rues de Paris. Des images fortes des pompiers qui se mettent littéralement en feu sur le parcours de la manifestation. Et puis plus encore, ce face-à-face, ce corps-à-corps entre des pompiers et des policiers. Clairement rarissime, voire totalement inédit, une situation pareille. Qui veut démarrer avec ça? Parce que c'est clairement, on est à un croisement. On est oui, un carrefour. On est.
C'est pas inédit parce qu'il y a déjà eu, il y a trois mois.
15 octobre.
Le 15 octobre, exactement, il y a eu une manifestation très importante de pompiers qui réunissait comme celle d'aujourd'hui des milliers de pompiers. Je rappelle qu'il y a 45 000 pompiers en France et il y avait eu, si je me souviens bien, le 15 octobre, il y avait eu, estimé par la police, entre 7 000 et 10 000 manifestants. Je ne sais pas combien il y en avait aujourd'hui, en tout cas il y en avait probablement à peu près dans ces eaux-là. C'est-à-dire énormément de gens, énormément de pompiers, et ça s'était terminé déjà par des incidents violents. Donc je me dis, en voyant ces deux manifestations, qu'il y a véritablement un malaise et un mécontentement profond chez des catégories de professionnels qui sont, par ailleurs, les plus appréciés et les plus nécessaires aux Français. Hein, les catégories dont on a le plus besoin en cas d'urgence, ce sont évidemment les policiers, les médecins et infirmières et les pompiers. Et là, ce sont ces catégories qui sont dans un profond mécontentement, parce que sinon, ils ne viendraient pas à Paris dans des conditions où ils sont prêts, effectivement, à se heurter avec les policiers.
À se heurter avec les policiers. Alors, effectivement, vous l'avez dit, on l'avait vu, Charles Villeneuve, mais l'image forte aussi des pompiers aujourd'hui, c'est qu'ils se mettent en feu eux-mêmes. Et là, on est quand même effectivement très troublés par le malaise, par cette situation. Ils sont exsangues.
Ils viennent d'ailleurs en tenue de feu.
Oui, c'est ça.
Mais il faut distinguer deux choses de manière importante. Les pompiers, si vous voulez, il y a deux catégories de pompiers. Il y a les pompiers de statut militaire, ce sont les pompiers de Paris qui sont commandés par des officiers saint-cyriens, etc. C'est un encadrement militaire classique et qui touche, si vous voulez, des primes qui sont supérieures aux autres pompiers. Il y a les pompiers de Paris professionnels militaires, statut militaire, et les pompiers de Marseille qui sont des pompiers marins. Bon. Et évidemment, statut militaire aussi, et dont les primes sont supérieures aux primes des autres pompiers qui dépendent des conseils départementaux. Et vous savez très bien que dans les régions, que dans les mairies, aujourd'hui, l'État a de plus en plus, si vous voulez, délesté en quelque sorte une partie des budgets d'aide d'État, et que les primes ont baissé. Eux réclament d'ailleurs ce que vous avez vu cet après-midi, le 15 octobre dernier, 28% du salaire. De base contre 19% actuellement. Mais ce n'est pas seulement leurs moyens ont baissé, parce que c'est de plus en plus cher, et puis aussi le nombre, si vous voulez, de pompiers volontaires qui viennent et qui s'engagent. D'autant que les pompiers volontaires eux-mêmes ne touchent plus les primes dont c'est moins attractif, et vous en avez de moins en moins. Donc, si vous voulez, c'est l'ensemble cette situation qui fait qu'aujourd'hui, vous avez évidemment un malaise, tel que l'a défini Gérard, absolument, et par-dessus le marché, si vous voulez, se retrouve face à un service d'ordre qui fait son travail.
Et puis, Alexandre Malafaille, ils sont agressés aussi, les pompiers, aujourd'hui. Il y a la perte du sens du métier, et j'en passe.
Non, mais ça va au-delà du malaise. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à la place des pompiers, aujourd'hui, qui sont quand même des grands serviteurs de l'État devant l'éternel, et on a besoin d'eux tous les jours. Et ça fait, si on prend simplement la problématique des gilets jaunes et de ce qui s'est passé avec les mouvements de grève, ça fait un an et demi que pour eux, c'est un jour sans fin. C'est-à-dire que ça fait, je ne parle même pas des problèmes de quartier, de banlieue, etc. Mais ils sont mobilisés avec une pression intense depuis un an et demi. Ils disent des choses et leur situation n'évolue pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça finit par accumuler petit à petit, qui fait qu'on est au-delà du malaise. Pour moi, aujourd'hui, quand je vois les pompiers s'affronter avec les forces de l'ordre, je me dis demain, ce sera peut-être les gendarmes face aux policiers, parce que ça peut aussi arriver à un moment donné que les gendarmes en aient un peu ras-le-bol, qu'on les prenne pour des gogos, parce qu'on les écoute pas.
Non, les gendarmes ne peuvent pas.
Les policiers contre gendarmes. Mais vous savez, je pense qu'aujourd'hui, tout devient possible. Et je pense qu'en fait, il y a un signal qui est. Je suis d'accord avec vous, ce sont des militaires, mais je pense qu'il y a une problématique de radicalité qui est en train de s'installer partout. Et en fait, si moi j'étais aujourd'hui au pouvoir, je dirais attention, le miroir se fissure.
Il y a une forme de déliquescence.
Attendez, je voudrais le miroir se fissure. Et le gouvernement devra en tirer une leçon. Oui, mais attendez, justement, il faut faire une pause dans un cas comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez tout ce qui se fracture, qui se dilate, il faut trouver le moyen de faire une pause, parce qu'on va où comme ça? La question, c'est on va où comme ça?
Alors, on essaye de trouver la réponse, d'ébaucher, en tout cas, d'aller comme ça sur des ébauches de réponses dans la partie suivante.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. Et ce soir, autour de vous, Nathalie Lévy, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Alexandre Malafaille, président fondateur du think tank Sinopia.
Avec des images qui heurtent aujourd'hui ces milliers de pompiers qui ont défilé à Paris et qui, symboliquement pour certains, se sont mis littéralement en feu pour protester contre la réforme des retraites aussi. Des images très fortes, des images graves qu'on avait déjà vues d'une certaine manière le 15 octobre. Mais là, il faut des réponses. Il faut des réponses, il faut que le gouvernement entende. Alors pas que du sonore
très méchant. Il a déjà, le gouvernement, il a déjà, dans l'après-midi, déjà, oui. Il a cédé en partie, puisqu'il il voulait que leur prime de feu, qu'ils appellent leur prime de feu, passe de 19% du salaire à 28%. Oui. Ils ont obtenu 25%. Mais ils disent...
À hauteur des primes accordées aux policiers et aux gendarmes.
Mais ce n'est pas parce qu'on aura donné 25, voire même 28 dans un deuxième temps, qu'on va résoudre ce problème. Moi, je suis préoccupé par voir... C'est la chaîne des professions qui incarne l'autorité dans une nation qui est peu à peu mise en cause. Les policiers ne sont pas contents. On l'a vu dans des manifestations, ça peut revenir. Il y en a eu déjà d'importantes.
Ils sont à cran.
Oui, ils sont à cran, tu as raison. Donc, les policiers... Et les pompiers, en fait, c'est pas seulement l'argent, c'est une forme de reconnaissance sociale, etc. Oui, mais c'est aussi parce que les pompiers, comme par hasard, chaque fois qu'il y a dans les banlieues, par exemple, des incidents. Autrefois, quand il y avait un feu, on disait « Ah, enfin, les pompiers arrivent, les pompiers, vivent les pompiers !» On était prêts à les embrasser, parce qu'on disait « On va sauver la maison, etc. Mmh. » Maintenant, souvent, quand il y a des faux incendies ou des bagnoles qui flambent, etc., les pompiers arrivent et ils se font caillasser. On leur balance des trucs. Donc, il y a plus... Et ils ont ça en commun avec les policiers. C'est-à-dire qu'il y a aussi, pour eux, une forme d'insécurité dans la société. Je pense que... Je crois que c'est M. Malafaï qui l'a dit, notre confrère, il faut répondre autrement que par... Le fric, c'est bien, le fric, c'est
mais
pas la, ce qu'ils veulent.
La considération, ouais. c'est aussi important, voire plus. Alexandre Malafaï, ils sont découragés, ils sont méprisés. D'un mot, depuis 7 mois, ils réclament, et plus encore, des revalorisations. Le truc, c'est que, outre le fait de se faire agresser, ils ont aussi maintenant dans leurs actions des interventions qu'ils ne devaient pas faire au préalable. Ils sont même plus sur des actions d'urgence. Ils vont relever des personnes âgées, etc. etc. Le champ des possibles est tellement étendu qu'ils ne s'y retrouvent plus non plus. On s'arrête où ?
Mais c'est toute la problématique d'ailleurs de beaucoup de professions qui aujourd'hui voient leur métier tellement évoluer, tellement chamboulé, sans qu'il y ait une véritable reconnaissance de ces changements et des problématiques nouvelles qui sont posées à eux, que finalement ils sont dans une forme de désespérance. On fait tout, on assume tout, on est derrière la société en permanence pour venir en aide aux uns aux autres. On se fait effectivement, regardez à Strasbourg ce qui s'est passé, 1000 pompiers dans la rue, les images étaient incroyables. Quoi. Alors ces pompiers, ce cortège de pompiers qui était là en train de manifester, on va sauver des gens, on prend des frigos sur la tête, ça va pas, il y a quelque chose qui est de pourri dans ce royaume.
Sauf qu'ils veulent aussi Charles Villeneuve, et on en terminera avec ce sujet. Ils veulent aussi le retrait de la réforme des retraites. Bah, là, on sait très bien que le dossier est de toute façon plié. Les dés sont jetés. Donc, il n'y a aucun espoir de ce côté-là. Le seul espoir qu'ils peuvent avoir, c'est des sous, une revalorisation.
Non, mais ils ont sauvé leur régime spécial.
Non, mais il y a sur les sous, de toute façon, qui compte. Hein, parce que quand on dit, il n'y a pas que les sous, d'accord, mais il y a d'abord les sous. Bon.
Je peux juste faire une parenthèse. Est-ce que ce n'est pas dommage d'attendre une manif pour lâcher les sous, quoi ?
Oui, mais c'est ce qui s'est passé, là, sur le 25%, les 25% plutôt que les 28%. Mais les sous passent par les conseils départementaux. C'est eux, de toute façon, qui, en quelque sorte, si vous voulez, gèrent le corps des pompiers professionnels, mais qui ne sont pas de statut militaire, puisque les pompiers de statut militaire sont gérés directement par l'État. Ce qui n'est pas le cas des pompiers que vous avez vus cet après-midi, enfin pour les trois quarts, dans la rue. Et partant de là, les conseils départementaux, eux, sont largement affaiblis, compte tenu du fait que l'État s'est dégagé, si vous voulez, qui se substituait, en tout cas qui finançait depuis 1945 les conseils généraux, les mairies, etc. L'État s'est dégagé et à charge, évidemment, des budgets des mairies, notamment des municipalités, des conseils départementaux. Il n'y a plus de conseils régionaux, de toute façon, et aujourd'hui ne sont plus capables, si vous voulez, d'améliorer, de moderniser le matériel et évidemment d'entretenir, de distribuer des primes pour que les pompiers volontaires se joignent aux pompiers professionnels, qui constituent le noyau centrale, si vous voulez, des pompiers professionnels en France. Donc, si vous voulez, c'est un rébus qui est très difficile à résoudre.
Un peu la quadrature du cercle. On va aller dans un instant sur les municipales, parce que Gérald Darmanin, vous avez vu, il y va. Lui, il veut se lancer à Tourcoing. Ça y est, c'est fait. Combien vont suivre ? Dans quelle mesure ça va impacter ce gouvernement ? Remaniement prochain ? Comment cela va se passer ? On en parle avec vous.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Dévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h. Le grand débat des grandes voix, ce soir, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Alexandre Malafaï, président fondateur du think tank Sinopia.
Le poids lourd de l'exécutif, un des poids lourds de l'exécutif, Gérald Darmanin, a levé le bref au suspense hier soir en annonçant sa candidature en tête de liste au municipal à Tourcoing. On peut avoir encore des figures, hein. C'est jusqu'au 27 février pour les candidatures qui seront déposées en préfecture. Plusieurs ministres sont encore indécis. En tout cas, ça veut dire qu'a priori, il pourrait quitter le gouvernement.
Et ça ne se bouscule pas au portillon.
Non,
hein,
pour l'instant.
Pour l'instant, il y a j'en ai dénombré
Darmanin,
5.
Moi, je trouve que Darmanin, si vous voulez, ça peut s'expliquer. Il a un lien avec sa ville.
Tout à fait.
Et il a un coefficient supplémentaire à certains des ministres, par exemple comme le ministre de l'Agriculture, qui lui s'auto-parachute à Biarritz. Mmh. Moi, je le plains parce que je pense que ça va être, si vous voulez, il va prendre... une
claque,
raclée, voilà. Même, je pense. Mmh. Il est moins malin que son camarade
Jean-Baptiste Lemoine,
oui, qui lui s'est glissé dans la liste sortante du maire, sortant. Mmh. Ce sera un peu plus facile pour lui. Il sera élu vraisemblablement. Mais les envoyer comme ça, si vous voulez, c'est les envoyer au casse-pipe.
Et c'est Édouard Philippe qui réglera cela.
Mais les parachutés, c'est jamais apprécié par les populations. Et les parachutés dans une période déjà extrêmement tendue comme la France d'aujourd'hui, je pense que les parachutés, ils vont avoir du mal. Ce qu'on appelle les parachutés ou les candidats officiels ou quasi-officiels. Vous vous souvenez, depuis Napoléon III, les candidats officiels. Et ça, c'est toujours mal vu du public et surtout quand les gouvernements lui-même, enfin l'État lui-même, la République, n'est pas tellement en bonne santé, en forme actuellement. Voilà, donc je disais, on ne se bouscule pas au portillon.
C'est vrai, vous avez
raison. Il y en a 5 pour l'instant, dont 2 à Paris qui sont au fond candidats.
C'est ça que j'ai du mal à comprendre, Gérard. C'est-à-dire que notamment, si la tête de liste de La République En Marche à Paris, Griveaux, toute façon, qui est mal en point, si par-dessus le marché tu ajoutes des ministres comme semble-t-il Marlène Schiappa, etc., et Agnès Buzyn qui est poussée justement, je ne sais plus dans quel arrondissement de Paris, à se présenter le 15e
arrondissement.
Là, sincèrement...
Franck Riester aussi qui est indécis.
Le sort leur sera réservé, comme a dit Didier Guillaume.
Bah, est-ce que vous mettez un billet, Alexandre Malafaï, sur le fait qu'il restera ministre avec une belle promotion, Gérald Darmanin? Parce que c'est une figure. C'est aujourd'hui quand même... voilà, un poids lourd de l'exécutif.
C'est un de ceux qui ont le mieux réussi.
Emmanuel Macron, il a besoin de le garder.
Tout ça, quand même, est assez agaçant. Enfin, parmi les leçons...
ce que je viens de dire là ?
Non, c'est la situation. Parce que parmi les leçons du Nouveau Monde, c'est bien qu'il faut que tout change pour que rien ne change. On continue la vieille politique comme avant. Oui. Les vieilles techniques, les vieilles combines. Voilà, on va parachuter quelqu'un ou renvoyer quelqu'un sur le terrain qui a une bonne image pour le faire élire, pour marquer un drapeau.
Darmanin, c'est le seul guépard du gouvernement.
D'accord. On est peut-être d'accord. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut faire des choix. Il faut être sérieux. Vous pouvez pas dire aux Français. J'ai un job qui me prend 18 heures par jour, et puis dans des périodes de crise qui sont réelles et sérieuses, enfin la situation compliquée, et tout d'un coup je vais partir, je vais en campagne pour me faire...
Non, mais pardon, d'ailleurs ce serait pas, pas respectueux dans ce cas pour les populations.
Vous oubliez une dimension avec Darmanin, qui vous dit qu'il ne veut pas quitter le gouvernement.
Je vais juste poursuivre mon petit propos pour vous dire, je vous laisse parler parce que j'ai le respect de l'autorité, n'est-ce pas? Mais je voudrais simplement dire que quand même, il faut faire un choix. Voilà, dû aux personnes qui le méritent. Non, mais juste pour dire, il faut faire un choix. Moi, je comprends très bien que certains soient tentés d'avoir une expérience municipale pour compléter leur parcours, mais dans ces cas-là, ils quittent le gouvernement, ils font campagne et ils assument.
Mais
c'est le job du Premier ministre ou du Président de la République, mais disons du Premier ministre, de faire régner cet ordre et de dire, attention, chers camarades, qui vous présentez ici ou là, si vous êtes élu, bien évidemment, il faut que vous exerciez votre mandat, mais dans ce cas-là, vous quitterez.
Si vous faites campagne, vous démissionnez, vous n'avez pas le temps de tout faire.
Mais il y a une autre hypothèse.
Parce que l'hypothèse selon laquelle quelqu'un se fait élire dans une ville, et en plus Darmanin, moi j'ai de la sympathie pour lui, je trouve ça a été pratiquement la révélation du gouvernement.
De toute façon, il n'y a pas de règle juridique, la règle elle est seulement politique.
Mais s'il se faisait élire, et il sera sûrement élu à Tourcoing, parce qu'il est extrêmement bien implanté, mais s'il se fait élire, et puis qu'il annonce que finalement, il n'exercera pas son mandat de maire parce qu'on lui aura demandé effectivement de choisir, alors là ça sera encore perçu par les gens comme on se moque de nous.
Mais ils sont capables de le faire.
Mais attendez, juste ôtez-moi d'un doute, c'est pas du côté d'Emmanuel Macron, lui, ou dans ton cercle très proche, qu'on a dit c'est une bonne chose que les ministres aillent se présenter, soient candidats au municipal.
Mais pour une raison pour une raison simple, c'est qu'ils sont de toute façon, mal en point. La circulaire Castaner vous montre d'ailleurs, puisqu'on ne veut plus compter la couleur politique dans les villes de moins de 9 000 habitants. Ça veut dire qu'ils ont un soupçon, si vous voulez, d'un résultat relativement moyen, sinon médiocre. Alors, on envoie les ministres, notamment dans des villes où ils sont déjà largement et très bien implantés.
Et on envoie même le premier ministre.
Ce qui est le cas de Darmanin. La seule offre qui pourrait retenir Darmanin, c'est le ministère de l'Intérieur.
C'est ce que je disais. On a besoin de le garder, donc on va lui faire un joli cadeau supplémentaire, une belle promotion. Ouais. Mais attendez, parce qu'il y a les ministres, mais il y a le Premier ministre dans tout ça.
Ah ben,
ce sera vendredi, meeting de lancement de campagne au Havre. Il en a été maire de 2010 à 2017. Oui. Il va préciser ses intentions.
Il va préciser. Et puis il va nous dire, j'espère, il va dire aux journalistes qui vont l'interroger, dès qu'il aura annoncé qu'il sera candidat, il va leur expliquer. Alors, monsieur le Premier ministre, si vous êtes élu, et vous le saurez sûrement au Havre, vos antécédents au Havre, dans ce cas-là, est-ce que vous allez quitter Matignon ?
Oui.
Parce que s'il est battu. Il ne peut pas être battu, à mon avis, au Havre. Moi, je connais un peu le Havre. Non, il ne sera pas battu.
Mais il y a la règle non écrite sous la 5e.
On est quand même dans une espèce de système un peu bizarre.
C'est qu'un ministre qui n'est pas élu, de toute façon, ne retrouve pas son poste de ministre. Mais il peut très bien aussi, si tu veux, se présenter sur la liste comme premier adjoint.
Oui, c'est peut-être ce qu'il fera.
Alors qu'après, il y a un engagement d'un certain nombre de grands élus qui veuillent s'impliquer ou jouer les pompiers pour faire le lien avec le premier sujet, pour venir soutenir des figures locales, très bien, mais qui joue le jeu de cet engagement en numéro 2, en numéro 3, mais qui ne fasse pas campagne ou même en tant que chef de file, d'autant plus que, pardon, je le redis, moi je tiens beaucoup à cette clarté par rapport aux Français qui ont voté pour le Nouveau Monde, qui disent, mais attendez, vous n'avez pas le temps de cumuler 3 jobs, de faire des campagnes, etc. Non, il faut être sérieux, il y a des choix à faire. Et donc, je pense que si on veut vraiment prendre une mairie et faire 2 mois de campagne, eh ben, on quitte son ministère, on assume les conséquences.
On s'en émeut, mais ça a toujours été le cas dans la 5e.
Oui, mais c'est pas le moment.
Vous l'avez dit, pour nous refaire
l'ancien monde, effectivement, bon.
Merci beaucoup, messieurs, en tout cas. Merci beaucoup, les grandes voix.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy sur Europe 1.
Le journal de 19h d'Isabelle Millet, avec à la une de l'actualité ce soir, un 4e cas de coronavirus en France, confirmé et hospitalisé à Paris. On vous en parle dans le détail, on vous donne toutes les dernières informations.
Toute l'info qu'il vous faut, c'est votre grand journal du soir, tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. Jusqu'à 20h sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir avec la suite du programme, Nathalie Lévy.
La politique à 19h10, la réforme des retraites qui agite les bancs de l'opposition à l'Assemblée. Aurélie Herbeumont reçoit Valérie Rabault, présidente du groupe PS à l'Assemblée. 19h20 demain le Brexit. Et oui, pendant 4 jours, dans 4 jours ce sera la date butoir. Et on vous raconte donc d'ici là l'histoire tumultueuse entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Et tout cela en musique. À 19h30, un phénomène de société qui pose question. Salles de sport, clubs, transports, pourquoi les zones et établissements réservés aux femmes se multiplient-ils ? Que se passe-t-il ? A-t-on perdu la bataille de la mixité ? On va essayer de comprendre, d'apporter des éléments de réponse. C'est un débat à ne pas manquer. Et puis à 19h45, c'est mardi, c'est ciné. C'est Mathieu Charrier et aussi Lambert Wilson. Il sera au bout du fil parce qu'il est à l'affiche du film Les Traducteurs qui arrive en salle demain.
Et votre grand journal du soir, c'est avec Isabelle Millet et Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Nous avons ce soir un 4e cas confirmé. Il s'agit d'un touriste âgé qui est actuellement hospitalisé en réanimation.
Et ce 4e cas de coronavirus confirmé donc à l'instant en France, un touriste chinois en réanimation à Paris. On y revient bien sûr dès le début de ce journal.
Les pompiers ont enfin été entendus après 7 mois de grève et une manifestation musclée cet après-midi. Ils devraient cesser leur mouvement.
Le plan pour la paix de Donald Trump. Le président américain évoque une solution réaliste à 2 États, une chance historique selon lui pour les Palestiniens d'obtenir un État indépendant. Et puis un grand retour en foot, celui de Ben Arfa qui signe à Valladolid en Espagne, le club de l'ex-superstar brésilienne Ronaldo.
Anissa, on regarde vers le ciel ?
Oui, avec demain du vent, de la pluie et de la neige à l'est. À l'ouest, c'est une belle journée qui s'annonce pour vous. La météo tout près de chez vous, ça sera à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Isabelle Millet. Et c'est donc l'information de cette soirée, un 4e cas de coronavirus en France.
Cas qui vient d'être confirmé, Isabelle, à l'instant par le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, l'écoute.
En ce qui concerne la situation en France, nous venons d'être informés que nous avons ce soir un 4e cas confirmé. Il s'agit d'un touriste âgé qui est actuellement hospitalisé en réanimation à Paris. Son état clinique est donc sévère puisqu'il nécessite des soins de réanimation. Évidemment, l'enquête épidémiologique est lancée, en particulier la recherche de ces cas contacts.
Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, il y a quelques instants avec Marine Protet. On en sait plus sur le rapatriement. Par ailleurs, des Français de Wuhan, deux avions seront spécialement affrétés pour les volontaires, au moins 350 Français en tout et 100 ressortissants européens. Et à l'arrivée, tout le monde sera placé en quarantaine. Et puis un premier cas a été confirmé aujourd'hui en Allemagne. Il s'agit d'un homme qui a été contaminé par l'une de ses collègues en provenance de Chine. Jusqu'à présent, tous les patients signalés en Europe avaient été infectés lors d'un séjour en Chine.
On vous parle de ce face-à-face tendu pour le moins cet après-midi entre pompiers et forces de l'ordre. Ça s'est passé à Paris.
Oui, on était sur place tout à l'heure sur Europe 1 dans le journal de 18h. Des pompiers venus de toute la France et très en colère pour dénoncer le manque d'effectifs et de reconnaissance surtout de leur profession et pour réclamer aussi des garanties pour leur retraite. Eh bien, leurs syndicats ont été une nouvelle fois reçus aujourd'hui et ils ont, semble-t-il, obtenu satisfaction puisque le ministre de l'Intérieur annonce à l'instant qu'ils devraient arrêter leur grève commencée il y a 7 mois. Christophe Castaner, évidemment, s'en réjouit.
Il y a un long travail depuis plusieurs mois sur toute une série de sujets, des sujets qui concernent par exemple la santé, qui concernent aussi les risques face aux agressions, et nous savons qu'elles sont nombreuses contre les pompiers, des sujets plus structurants comme des inquiétudes sur le devenir de leur retraite et la spécificité, la prise en compte de la dangerosité de leur métier. J'ai proposé une augmentation de la prime au feu qui semble satisfaire les organisations syndicales. Donc elles sont sorties de cette rencontre plutôt satisfaites, elles l'ont exprimée. La manifestation se termine, je regrette quelques violences qui ont eu lieu dans le déroulement de la manifestation pendant que nous étions en train de discuter dans de bonnes conditions avec les partenaires sociaux. J'espère que l'appel à lever la grève porté par les associations syndicales permettra d'apaiser ce qui se termine au titre de la manifestation.
Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, ce soir, Donald Trump a donc dévoilé tout à l'heure son plan de paix pour le Proche-Orient. Signe fort, le président américain était accompagné pour cette annonce officielle de celui qu'il appelle désormais son grand ami, Benjamin Netanyahou.
Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en direct. Si l'on en croit Donald Trump, les deux camps ont toutes les raisons d'être satisfaits par ses propositions.
Ah oui, c'est un Donald Trump triomphant qui s'est adressé à une salle remplie principalement de supporters d'Israël, très enthousiaste. Il a vanté ses compétences de dealmaker et promis que son plan était le meilleur que tous ceux tentés jusqu'à présent.
Ma vision présente une occasion gagnant-gagnant pour les deux parties. Une solution réaliste à deux États qui résout le risque que représente un État palestinien pour la sécurité d'Israël. Aujourd'hui, Israël a fait un pas de géant vers la paix.
Israël, par la bouche de son Premier ministre, se dit très satisfait. Les Palestiniens, beaucoup moins. Leur président Mahmoud Abbas n'était pas présent à la Maison-Blanche. Il avait déjà rejeté ce plan par avance. Donald Trump dit lui avoir envoyé une lettre pour le conjurer d'étudier son projet. Et d'après ce qui a été dévoilé, difficile d'imaginer les Palestiniens accepter. Certes, ils auraient un État pour la première fois, avec un territoire continu grâce à un tunnel entre la Cisjordanie et Gaza. Mais les colonies resteront sous souveraineté israélienne, tout comme la vallée du Jourdain. Ils n'auront comme capitale que la banlieue est de Jérusalem, c'est-à-dire sans la vieille ville, donc sans les lieux saints. Donald Trump a d'ailleurs écorché le nom de la mosquée Al-Aqsa, une des plus sacrées du monde musulman. Ça fait beaucoup de renoncements pour les Palestiniens. Pour compenser, Donald Trump promet de déverser sur leur nouvel État une aide de dizaines de milliards de dollars.
Merci beaucoup Xavier Yvon depuis Washington, correspondant d'Europe 1 sur place. Gérard Haro était mon invité tout à l'heure, ancien ambassadeur de la France aux États-Unis. Pour lui, le plan de Donald Trump est le plus pro-israélien jamais imaginé. Renault, Isabelle, a un nouveau directeur général. La nomination de Luca De Meo a été actée cet après-midi même.
Il s'agit d'un Italien, patron de Seat depuis 2015. En 4 ans, il a brillamment redressé la marque espagnole, désormais bénéficiaire après des années dans le rouge. Cette nomination est plutôt bien accueillie d'ailleurs aujourd'hui par les salariés, d'autant qu'elle va mettre fin à une période d'instabilité depuis le départ de Thierry Bolloré.
Les municipales, on en parlait avec les grandes voix, tournent littéralement au casse-tête pour l'exécutif. Le duel pour Paris auquel se livrent Benjamin Griveaux et Cédric Villani a des répercussions jusque sur les bancs de l'Assemblée nationale.
Et oui, puisque Paula Forteza, députée des Français de l'étranger, a annoncé aujourd'hui qu'elle quittait La République En Marche. Je suis Cédric Villani dans sa campagne, a-t-elle déclaré. Et pendant ce temps-là, on s'est encore écharpé cet après-midi à l'Assemblée sur la réforme des retraites lors des questions au gouvernement, alors que le groupe Les Républicains demandent au gouvernement justement de déposer un nouveau projet de loi au Conseil d'État, estimant que cette réforme, elle est injuste et déséquilibrée financièrement.
Et Aurélie Herbemont, on sera avec Valérie Rabault, présidente du groupe PS à l'Assemblée nationale dans moins d'un quart d'heure. Les sports et le foot, Isabelle.
Et ensuite, depuis une demi-heure maintenant, les trois premiers quarts de finale de la Coupe de France, Angers-Rennes, Belfort-Montpellier et Limonest-Dijon. Et c'est simple pour l'instant, il y a zéro partout entre les six équipes. Donc, et à partir de 20h55, on suivra Monaco-Saint-Etienne.
Le foot, c'est aussi le grand retour d'Athem Ben Arfa. On ne l'avait plus vu sur les terrains depuis juin dernier.
L'ancien Rennais, oui, qui a choisi l'Espagne pour ce grand retour, et plus précisément le club de Valladolid. Et nous, on va partir aussi en Espagne rejoindre Henri de la Guérie. Bonsoir Henri.
Bonsoir Isabelle.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1. Alors l'ancien ballon d'or brésilien Ronaldo a visiblement trouvé les mots pour convaincre Ben Arfa.
Oui, effectivement, la légende brésilienne, actionnaire majoritaire du club et l'enfant terrible du football français ont posé tout sourire devant les photographes ce matin pour officialiser ce transfert entre les deux hommes. Le courant est passé. Hatem Ben Arfa, artiste incompris pour certains, joueur ingérable pour d'autres, a été séduit par le projet du patron du club, Matt Fenert. Mais il vient surtout pour Ronaldo, un joueur qu'il a admiré. Tendez l'oreille, le son n'est pas de très bonne qualité.
Il y a Matt et Ronaldo justement qui m'ont convaincu pour que je vienne ici. Et j'ai senti justement que le club, j'ai été très intéressé. Je fonctionne beaucoup à l'instinct. J'ai senti que ici c'était un bon endroit pour venir.
Voilà, Ben Arfa qui aura 33 ans en mars est un véritable globe-trotteur du football. Il est notamment passé par Lyon, Newcastle, Marseille, Nice ou Rennes. Mais ces 8 derniers mois, le milieu offensif s'est entraîné tout seul et la presse espagnole se pose logiquement des questions sur son état de forme. Pour Valladolid qui vise le maintien dans l'élite, c'est un coup médiatique mais c'est un pari osé. En tout cas Isabelle, malgré sa réputation de joueur conflictuel, le retour de Ben Arfa sur les terrains est forcément une bonne nouvelle pour les amoureux du beau jeu.
Et vous suivrez ça évidemment, Henri de la Guérie, puisque maintenant, ça y est, il est chez vous en Espagne. Merci Henri, correspondant d'Europe 1.
Et voilà, merci à vous Isabelle. L'info revient à 19h30, un nouveau journal complet. Anissa, du côté du ciel, un peu plus de soleil demain.
Oui, c'est une petite accalmie, une accalmie temporaire et ça va nous faire du bien, on va essayer d'en profiter. Alors surtout à l'ouest, hein, la journée commence sous les nuages et les premières éclaircies vont arriver très tôt par l'ouest. Donc si vous nous écoutez dans le nord, en Normandie, en Bretagne, demain c'est chez vous qu'il fera le plus beau dès le début de journée. Au fil des heures, le soleil va s'imposer sur une grande partie ouest du pays, des Ardennes au Pays Basque, des éclaircies qui seront au rendez-vous tout au long de la journée avec un temps sec. À l'est, de l'Alsace à la vallée du Rhône, en revanche, là c'est beaucoup moins sympa, c'est nuageux, c'est une journée ponctuée d'averses, de giboulées et même de la neige sur les Vosges, le Jura, les Alpes et le Massif central. La neige tombe encore pas mal demain avec un risque d'avalanche assez important sur les Alpes et sur les côtes de la Manche. Et bien là aussi il va falloir faire attention au vent, le vent d'ouest qui souffle très fort et attention sur le Cap Corse, 150 km/h, hein, les rafales de vent pour cette nuit et tôt demain matin. Les températures, 0 à 10 degrés demain matin, 6 à 18 l'après-midi.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec la suite du programme Nathalie Lévy.
C'est l'interview politique du jour. Aurélie Herbemont, bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
Votre invitée ce soir.
Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale et membre de la commission spéciale retraite. L'opposition bataille pour reporter l'examen de la réforme, mais sans succès. Ça commence bien ce soir.
Et l'interview politique d'Aurélie Herbemont, c'est dans un instant dans votre grand journal du soir sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, l'interview politique.
Et Aurélie Herbemont, votre invitée ce soir dans ce studio, Valérie Rabault, présidente du groupe PS à l'Assemblée nationale.
Bonsoir Valérie Rabault.
Bonsoir.
Vous avez eu une première conférence des présidents ce matin à l'Assemblée autour de Richard Ferrand, une deuxième aussi cet après-midi, où les oppositions, les socialistes, les républicains, etc., ont en vain défendu un report de l'examen de la réforme des retraites. Pourquoi vous vous êtes lancé dans ce combat perdu d'avance? C'était sûr que les marcheurs n'allaient pas accepter de bouger leur calendrier?
Alors, c'est pas un report, c'est juste de dire qu'il faut le temps nécessaire pour pouvoir examiner correctement la réforme des retraites. Ça, c'était le premier sujet. Mmh. Et le deuxième sujet, c'était de dire, écoutez, quand on envisage une réforme qui concerne tous les Français, je dis bien tous les Français, pas que ceux qui sont nés après 1975, qui concerne un quart des dépenses publiques de la France, on veut avoir une étude d'impact. Une étude d'impact, c'est quoi? C'est une étude qui nous dise ce qui va exactement se passer.
Vous l'avez eu, l'étude d'impact, 1000 pages vendredi.
Alors, je vous invite à la regarder, parce que le nombre de fois où il est écrit que les impacts financiers ne sont pas précisément connus, c'est peut-être pas un record, mais enfin, ça en est pas loin. On veut des choses claires. Claires. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui dans l'étude d'impact. Et alors vous pourriez dire, bon, l'opposition joue leur rôle, c'est eux qui le disent.
Ça peut arriver.
Mais quand le Conseil d'État le dit aussi, et que c'est une des premières, j'ai jamais lu un avis du Conseil d'État aussi négatif que celui qui a été publié vendredi dernier sur la réforme des retraites. Donc si le Conseil d'État le dit, c'est qu'il y a un vrai problème. Et bien là-dessus, la majorité a dit, circuler, il n'y a rien à voir. La deuxième conférence des présidents a duré 49 secondes.
Vous avez chronométré?
Ben oui, parce que ça a duré tellement vite que j'ai regardé ma montre. Effectivement, ça a duré 49 secondes.
Que vous a dit Richard Ferrand en 49 secondes? Non?
C'est pas lui qui a parlé, c'est Gilles Legendre. Il dit la majorité,
président du groupe majoritaire,
on continue comme c'était prévu.
Vous considérez dans l'opposition que Richard Ferrand ne défend pas assez l'institution? Il y a eu des courriers ces derniers jours pour lui dire il faut sauver l'honneur du Parlement.
Je lui ai écrit beaucoup de courriers entre hier soir et ce matin, et cet après-midi j'en ai écrit deux. Oui, il faut sauver l'honneur du Parlement. C'est pas pour sauver l'honneur du Parlement, c'est parce que, encore une fois, les retraites, ça vous concerne vous. Ça concerne votre famille, ça concerne tous vos amis et ça concerne tous les Français, pas que ceux qui sont nés après 1975. J'insiste là-dessus. Il va y avoir pour le régime transitoire une modification de ce qu'on appelle l'assiette des retraites, le taux, qui n'est encore pas tellement bien connu, mais qui va concerner tous les Français. Donc quand on veut faire une réforme qui concerne tous les Français, on prend le temps de la faire bien.
Et donc, vous ne vouliez pas que ça commence ce soir, puis un examen dans l'hémicycle à partir du 17 février. Ça va quand même commencer ce soir. Vous parliez de l'étude d'impact. Est-ce que vous avez eu le temps, en 4 jours, de la lire intégralement?
Moi, j'en ai lu 300 pages. Donc, je n'ai pas lu intégralement. Mais j'ai déjà pas mal de questions. J'avais déjà adressé une première série de questions au Premier ministre. Je vais vous donner un exemple très concret. Et tous vos auditeurs vont parfaitement comprendre. L'étude d'impact, elle est calibrée sur un âge d'équilibre à 65 ans. Donc tous les calculs sont faits là-dessus, comme si chacun allait travailler jusqu'à 65 ans. Mais dans le même texte de loi, à l'article 10, le gouvernement dit « Cet âge d'équilibre de 65 ans va augmenter chaque année avec l'espérance de vie à hauteur des deux tiers. »
Un mois par génération.
Exactement.
Jusqu'à et donc, tous les... 66, donc, de fait, etc. avec l'allongement de la durée de la vie.
Tous les calculs sont faux. Tous les calculs sont faux. Puisque vos seuls calculs reposent sur un âge d'équilibre à 65 ans. Et le gouvernement vous dit, mais l'âge d'équilibre, on va l'augmenter. Donc ça, c'est en termes de sincérité vis-à-vis des Français, c'est inacceptable. Ça veut dire qu'à la fin des fins, vous ne savez pas ce qui va vous attendre. Le gouvernement dit, on veut faire un régime universel qui soit simple. C'est-à-dire qu'à votre retraite, vous aurez votre nombre de points retraite multiplié par la valeur du point. Jusque-là, tout le monde peut se dire, c'est assez simple. Sauf qu'il ne vous donne pas la vraie formule. Et la vraie formule, elle est elle aussi très simple et à la fois très compliquée. C'est le nombre de points multiplié par la valeur du point moins le malus. Et c'est là que ça se complique. Parce que pour la première fois dans l'histoire dans notre pays, le gouvernement met un malus qui ne dépend pas de votre durée de cotisation. On peut se dire, plus vous avez cotisé, moins vous avez de malus, ce qui est assez logique. Non, qui dépend d'un âge pivot ou d'un âge d'équilibre. Ça veut dire, en bon français, que grosso modo, vous aurez un âge légal à 62 ans, mais qu'il va falloir travailler jusqu'à 65, 66, peut-être même après,
et
pour pouvoir
terme,
avoir une retraite sans le malus. Et c'est bien toute la discussion qui va porter là-dessus, c'est qu'est-ce que le gouvernement met dans ce malus? Et c'est là que les Français se font avoir. Je vais donner un autre exemple. Vous avez entendu comme moi que le gouvernement a dit il ne faut pas qu'il y ait de retraite en dessous de 1 000 euros. Vous avez travaillé toute votre vie, cotisé toute votre vie, et vous ne pouvez pas avoir moins de 1 000 euros à votre retraite. Mais ça, c'est à condition que vous ayez cotisé au niveau du SMIC. Si vous travaillez à mi-temps et pour moins que le SMIC, ou si vous avez eu des interruptions dans votre carrière parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas cotisé, pas travaillé, vous n'aurez pas 1 000 euros par mois de retraite. Ceci est faux.
Donc ce que vous
dites est faux.
Quand le Premier ministre dit « toutes les données sont sur la table », vous vous répondez « l'étude d'impact, 1 000 pages, c'est zéro, ça ne sert à rien et on n'y voit pas du tout plus clair ».
Je ne dis pas que ça ne sert à rien, vous y allez un peu fort. Je dis juste que quand on fait une étude d'impact qui repose sur un âge d'équilibre à 65 ans et qu'on dit 3 pages après « ah ben non, mais attendez, l'âge d'équilibre, il va augmenter chaque année pour les générations parce que l'espérance de vie augmente, etc. » Eh ben je dis que c'est pas juste.
Et que ça reste peut-être un petit peu flou. Alors, vous avez eu des conférences des présidents aujourd'hui. Vous avez aussi eu une mini-conférence des présidents, dirons-nous. Une réunion avec vos collègues Jean-Luc Mélenchon et André Chassaigne, qui sont donc les présidents des groupes insoumis et communistes. Est-ce que vous vous êtes mis d'accord sur les munitions que vous pouvez utiliser dans la guérilla parlementaire qui commence? Puisqu'on se rend bien compte que ça va être ça.
On a fait déjà tous les trois le constat qu'on était face à une forme inédite de blocage même de la part du gouvernement et de sa majorité, qu'ils ne veulent rien entendre, qui dit on passera en force parce que si, parce que ça, etc. Donc là-dessus, on constate aussi qu'il y a 60% des Français qui se disent opposés à cette réforme et que nous devons être leur porte-parole de la meilleure façon qui soit. Les sondages ne gouvernent pas toujours, mais les Français ont le droit de savoir ce qui va les attendre. Et quand on voit qu'il y a autant de choses trappes dans cette réforme, vous savez, il y a des Français qui sont d'accord avec le régime à points, d'autres qui ne sont pas d'accord. Pour ceux qui sont d'accord avec le régime à points, on a quand même le droit aussi de leur montrer que la manière dont la réforme est construite aujourd'hui par le gouvernement leur réserve des choses trappes, ça veut dire des mauvaises surprises qu'ils découvriront au fil du temps.
Et alors qu'est-ce que vous allez faire, les trois groupes de gauche ?
On a acté que toutes les possibilités, motion référendaire, motion de censure était ouverte, que nous pourrions les déclencher au fur et à mesure de la discussion, de savoir s'il y a vraiment des blocages qui vont arriver, on le sait, vu l'état d'esprit de la majorité actuellement, et que nous nous autorisions toutes les dispositions législatives à notre portée.
Donc la gauche, cette fois, va essayer de faire front commun, parce que les dernières initiatives qu'avait lancées Jean-Luc Mélenchon en proposant une motion de censure il y a quelques semaines, vous aviez accueilli un petit peu fraîchement.
Mais non, d'abord, chacun a le droit. Moi, je pense qu'il faut que le débat parlementaire ait lieu. Je pense que la question et le débat de fond soient posés. C'est-à-dire qu'on puisse éclairer nos concitoyens sur ce qui va les attendre, parce que ce n'est pas une petite réforme, sincèrement, et elle touche tous les Français. Ça, c'est notre mission première. Et évidemment, à un moment donné, il faudra poser un acte politique face au blocage que nous rencontrons d'ores et déjà aujourd'hui et que nous risquons de rencontrer dans les semaines à venir.
Et donc, vous allez essayer de le faire ensemble. Merci beaucoup, Valérie
Merci
Rabault, d'avoir
vous.
Été mon invitée.
Europe 1.
À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Restez avec nous à 19h30, ce gros plan sur ces établissements, ces services réservés exclusivement aux femmes. Salles de sport, tour opérateur, services de VTC, ils se multiplient. Pourquoi ? Qu'est-ce que cela dit de notre société à l'heure actuelle ? Va-t-on arriver à des wagons exclusivement féminins ? Qu'est-ce que cela donnerait ? On en débat avec vous et avec nos invités au 3921.
Vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous écoutez Nathalie Lévy jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy. Et tous les jours avant 19h30, Nathalie, on regarde ce qui va se passer demain.
Et oui, parce que le monde change. On s'installe d'abord en France, à Nice, où les médecins et les chercheurs inventent en ce moment même le modèle du bien vieillir. Voilà, c'est complètement le monde qui change, ça, n'est-ce pas, Frédéric Michel ? Bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Vous êtes notre correspondant dans le Sud-Est. Le CHU de Nice veut faire de la métropole un véritable laboratoire vivant pour inventer et expérimenter le futur de la santé.
C'est exactement ça. Ici, un tiers de la population a plus de 60 ans. Toutes les catégories sociales sont représentées. La démographie a donc 10 ans d'avance sur la démographie du reste du pays. Et là où on arrivera à montrer que ça marche, on sera en capacité d'exemplarité pour d'autres territoires. L'idée, c'est de préserver au maximum l'autonomie de nos aînés en anticipant, en soignant et en suivant le mieux possible les pathologies chroniques comme le diabète, les insuffisances respiratoires, les cancers, mais aussi Alzheimer. Le professeur Olivier Guérin est gériatre au CHU de Nice.
Pour préserver l'autonomie, en fait, il faut prendre en soin notamment les pathologies chroniques le mieux possible tout au long du parcours de vie. Éviter la case hôpital, réfléchir à des moyens depuis les soins de ville, la médecine, mais aussi les infirmières, les kinés, les orthophonistes, tous les métiers de la rééducation, les psychologues qui ont un rôle très important aussi, d'avoir une vision d'ensemble.
Et Frédéric, il faut bien avoir en tête que le vieillissement est l'un des facteurs de risque de la plupart des pathologies, en fait.
Effectivement, car nous vivons plus longtemps, tant mieux. Le but, c'est donc à la fois de retarder l'apparition de ces pathologies, notamment grâce au dépistage, mais aussi, une fois que ces maladies sont là, de savoir les gérer et d'éviter qu'elles ne s'aggravent brutalement, car c'est là qu'on perd son autonomie. C'est pour cela que tout a une importance, le psychisme, l'alimentation et l'activité physique.
Sauf qu'on voit bien les difficultés dans le milieu médical aujourd'hui. Alors, combien ça coûte ? La question du prix, elle est là. Qui va payer ?
Le projet pour Nice est estimé à 6 millions d'euros, financé à 50% par le CHU et pour une autre moitié par des partenaires publics et privés et des mécènes.
Merci beaucoup Frédéric Michel. À Nice pour Europe 1, merci à vous. Et on poursuit parce que vendredi, ce sera la date officielle pour le Brexit. Alors toute la semaine, comme ça, on vous raconte l'histoire de cette désunion européenne et avec le son. Et Emmanuel Calafiore nous raconte la période 1979-1985, la période Thatcher, Emmanuel.
Nous sommes en 1979 et le tube cette année-là, c'est Blondie. Un cœur de glace, comme celui de Margaret Thatcher. Le 4 mai 1979, elle devient première ministre du Royaume-Uni. La dame de fer, glaciale avec ses concitoyens, va très vite le devenir avec l'Europe et avec le marché commun.
Nous ne réclamons pas un centime du budget commun pour le Royaume-Uni, mais le remboursement d'une grande partie de notre argent.
Rendez-lui son argent.
le 30 novembre 1979, elle exige un rabais de la participation du Royaume-Uni au budget de l'Europe. Pendant 6 ans, elle demande ça, elle réclame, elle exige, et en 1984, c'est gagné. Le Royaume-Uni versera moins d'argent que ses voisins de taille similaire, comme par exemple la France. Miss Maggie, Margaret Thatcher a l'Europe à ses pieds et personne pour se rebeller. En fait, si. La rébellion arrive en 85 et elle vient de France.
Pas de gonzesse sous le calme, imbécile et meurtrière. Il n'y en a pas même en Grande-Bretagne, à part bien sûr Madame Thatcher.
Cette voix reconnaissable, c'est celle de Renaud. Alors au départ, Miss Maggie, c'est une chanson comme un cri de colère contre ces hooligans déchaînés au stade du Heysel. 39 morts, 600 blessés. Mais au fur et à mesure des paroles, Renaud ne leur trouve qu'une personne qui aurait un point commun avec eux, c'est la Première ministre, Margaret Thatcher. Pour lui, en interview, Renaud va dire que la Dame de Fer a cette attitude plutôt guerrière. Elle affame les Irlandais, elle laisse crever les mineurs. D'une femme au pouvoir, on attend une attitude beaucoup plus humaine que celle d'un homme. Incident diplomatique des deux côtés de l'Europe, certains Britanniques vont même se sentir insultés pour leurs dirigeants.
Et les voisins européens, alors dans tout ça, qu'en pense-t-il, Emmanuel ?
Eh bien, pour les voisins européens, une version anglaise va être spécialement écrite, comme ça ils vont bien comprendre l'attaque.
Ça sonne moins bien.
Mais bon, il faut être honnête, si une grève n'a pas su arrêter la Dame de Fer, ce n'est pas une chanson qui le fera. Et en 1985, le Royaume-Uni est tout puissant.
Merci beaucoup Emmanuel. On a le son, l'ambiance, tout y est. La suite de cette rapide histoire et folle histoire d'une des unions annoncées sera demain. Et c'est en relief, vous l'avez compris.
Votre grand journal du soir, c'est tous les jours jusqu'à 20h. La suite du programme pour la prochaine demi-heure, Nathalie.
Le rappel des titres d'Isabelle Millet, juste après 19h30, salle de sport, club, tour opérateur, service de VTC, tous réservés uniquement aux femmes. La tendance se multiplie. Pourquoi ? Que doit-on en penser ? Faut-il en avoir peur même ? On se pose la question dans un instant.
Et vous pouvez participer au débat, évidemment, 3921 et Twitter avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir, avec Nathalie Lévy, jusqu'à 20h. 19h30 sur Europe, à votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec votre rappel des titres, Isabelle Millet.
Et un quatrième cas de coronavirus confirmé ce soir en France. Il s'agit d'un touriste chinois âgé qui est actuellement hospitalisé en réanimation à Paris. Son état est sévère, dit le directeur général de la santé. Les pompiers cessent leur grève qu'ils avaient entamée il y a 7 mois. L'intersyndicale a reçu des engagements écrits du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sur leurs revendications. Ils ont manifesté cet après-midi, notamment pour réclamer une hausse de leur salaire et le maintien de leur système de retraite. Donald Trump a présenté ce soir son plan de paix pour le Moyen-Orient, annonce solennelle depuis la Maison-Blanche en présence de Benjamin Netanyahou. Le président américain évoque une solution réaliste à deux États, une chance historique selon lui pour les Palestiniens d'obtenir un État indépendant. Il assure que Jérusalem resterait la capitale indivisible d'Israël et propose un État palestinien démilitarisé. Le premier ministre israélien salue une journée historique, mais ce soir le Hamas rejette officiellement ce plan. La France veut interdire le broyage des poussins et la castration à vif des porcelets dès la fin l'année prochaine. Pratique controversée, mesure insuffisante pour les associations de défense des animaux. Et puis le foot avec les 3 premiers quarts de finale de la Coupe de France. Ça se passe en ce moment. Rennes mène 2-0 à Angers. Et dans les 2 autres rencontres, il y a 0 partout à la mi-temps. Limonest Dijon et Belfort-Montpellier. On suivra à 20h55 Monaco face à Saint-Etienne.
Merci Isabelle Millet. Vous revenez demain ?
À demain.
18h sans faute. On compte sur vous. Anissa, il neige encore demain.
Oui. Ça. Alors sur les Alpes, sur le Jura, sur les Vosges, sur le Massif central, il neige sur quasiment tous les reliefs. Demain, il n'y a que les Pyrénées qui seront sous le soleil demain après-midi. Alors les vacances d'hiver arrivent bientôt pour la première zone, c'est dans un peu plus d'une semaine. Vous aurez donc de la neige pendant ces vacances parce qu'il neige à basse altitude à partir de 700 mètres. Demain, la journée, elle est assez simple à comprendre. À l'ouest, c'est du soleil, des Ardennes jusqu'au Pays Basque. Et à l'est, c'est un temps gris avec des giboulées, des averses, de la neige et beaucoup de vent d'ouest jusqu'à 80 km/h sur les terres. Attention sur le Cap Corse, je le répète et j'insiste beaucoup, cette nuit et demain matin, le vent va souffler jusqu'à 150 km/h sur le Cap Corse. Prudence donc. Et attention, on parle de neige, attention, alerte avalanche sur les Alpes. Les risques d'avalanche sont assez élevés. Les températures demain matin, 1 à 4 degrés sur le Grand Est, c'est là qu'il fera le plus froid, sous la pluie. 3 à 7 en général et jusqu'à 10
10 degrés sur les côtes atlantiques et le littoral méditerranéen.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy, avec votre invité.
Avec un débat ce soir, réservé aux femmes, ne pas entrer, messieurs, ce soir, en tout cas pour quelques minutes. Non, je force un peu le trait, mais j'aimerais bien évidemment qu'on débatte avec nos invités du succès de ces zones non mixtes. Bonsoir Valérie Furcage.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes cofondatrice de l'application Colette, vous allez nous dire dans un instant ce que c'est. J'accueille également au téléphone Edith Marie-Huéjoul, bonsoir.
Bonsoir.
Merci madame, vous êtes sociologue, spécialiste des questions de mixité dans l'espace public, directrice du bureau d'études AROB, Atelier Recherche Observatoire Égalité, hein, on est d'accord ?
Oui,
merci d'être là. Juste Valérie Furcage, oui. Colette, qu'est-ce que c'est Colette ?
Alors Colette est une application de VTC qui a la particularité de réunir des conductrices femmes et de les mettre à la disposition d'une clientèle de femmes.
Exclusivement ?
Alors, exclusivement, non. On va dire que les femmes prennent la commande, elles peuvent être accompagnées de leur époux, de leur compagnon, de leur copain. Enfin, on ne refuse pas les mais hommes pas en tant que tels, mais pas d'hommes seuls.
Sinon, ce serait effectivement alambiqué comme, comme application, ou en tout cas contradictoire. Edith Marie-Huéjoul, cette plateforme, celle de Valérie Furcage, Colette, mais d'autres, de plus en plus, on le voit, se développent pour à la fois sécuriser les femmes, les rassurer. Qu'est-ce que vous, la sociologue, en pensez ?
Oui, donc d'abord, on le regarde du côté des femmes, hein, mais l'entre-soi est déjà, la non-mixité est déjà instaurée par les hommes aussi, hein, sur l'espace public, sur les questions sportives, puisqu'on parle beaucoup aussi des créneaux réservés pour le sport. Donc la question en fait de la non-mixité, elle se pose aussi en fonction des services qu'on va chercher. Sur la question de la sécurité, on voit aussi que c'est probablement une réaction à ce qui se passe aussi sur les agressions qui ont été révélées dans les taxis, hein, voilà, dans les services d'application. Donc c'est aussi une façon, si vous voulez, de vivre son égale liberté pour les femmes et de profiter aussi, comme les hommes, d'être un peu plus insouciante, j'allais dire, lorsqu'elles sortent.
Alors, vous, Valérie Furcage, vous avez créé cette application, cette plateforme de VTC suite à un événement ?
Alors, l'événement, c'est que moi-même, j'ai évolué en tant que chauffeur il y a longtemps, en tant que chauffeur VTC. Et le constat, il a été très clair. C'est qu'il y a un problème de sécurité, notamment le soir. On veut travailler le soir, on se réserve naturellement, on se restreint à aller travailler le soir pour des raisons de sécurité. Et donc, la question de l'insécurité pour les femmes, elle est, j'ai envie de vous dire, évidente. Notamment, ce n'est pas moi qui le dis, les statistiques le disent, et les événements. Donc, l'événement, c'était simplement qu'à un moment donné, j'ai pris l'initiative de mettre en place un dispositif qui me permettait de travailler en toute sécurité.
Évidemment, la question, elle se pose. On se dit, s'il y a tant de lieux réservés aux femmes, c'est clair, c'est pour répondre à ces femmes agressées, à ces comportements malsains, etc. Très bien. Mais est-ce que c'est vraiment la solution, selon vous ? Parce que, on est dans une société mixte. Il faut faire avec, non ?
Alors, je suis d'accord avec vous. La mixité, ça fait partie des valeurs qu'on défend. Et puis, d'ailleurs, mon équipe est mixte, c'est pas le problème.
D'accord.
Mais que des femmes s'organisent pour pouvoir garantir leur sécurité, ça reste, pour moi, aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, c'est une initiative qui n'est pas choquante de devoir à un moment donné se protéger.
À tel point que par exemple, au-delà de la plateforme en question Colette, vous êtes de celles qui disent il faut effectivement des salles de sport non mixtes, il faut des espaces non mixtes pour le travail par exemple, il faut des ascenseurs non mixtes.
Non.
D'accord, vous poussez pas jusque-là.
D'accord. Je dis bien que le fait de prendre l'initiative de s'organiser en tant que femme pour garantir sa propre sécurité, c'est qu'il y a un problème de confiance. Des principaux acteurs qui sont normalement censés nous protéger, à ne pas pouvoir le faire.
Alors, on va continuer d'en discuter dans un instant parce que Anna Toumazov est militante féministe. J'aimerais bien qu'elle soit avec nous dans la discussion dans une seconde. Vous restez aussi avec nous, Edith Marie-Huéjoul et Valérie Furcage. On en discute juste après cela.
Et vous pouvez réagir bien sûr sur Twitter avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy. C'est tous les jours jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir avec le débat du jour, Nathalie Lévy, avec vos invités.
Et vous ne recevez que des femmes ce soir pour ce débat.
Oui, alors c'est voilà, un hasard. Ces lieux réservés aux femmes, de plus en plus, on en parle. Alors évidemment, ça a commencé par les transports, avec un certain nombre de femmes agressées. Il y a eu beaucoup de témoignages ces dernières semaines. Et puis, avec ce développement au-delà des transports, des salles de sport, mais aussi des tours opérateurs, de plus en plus, qui organisent des séjours uniquement féminins. Ils sont passés de 59 millions à voyager entre femmes, avant MeToo, à 138 millions. Bonsoir Anna Toumazov.
Bonsoir.
Vous êtes militante féministe, vous avez lancé le hashtag #UberCestOver pour les femmes agressées par leur chauffeur. Au-delà des transports, pardon ?
Oui, tout à fait.
D'accord. Au-delà des transports, quand je cite typiquement les séjours uniquement féminins, les salles de sport, de plus en plus comme ça, d'univers dédiés exclusivement aux femmes, de lieux dédiés exclusivement aux femmes, c'est la bonne réponse à la situation aujourd'hui ?
Mais je pense que dans la situation d'urgence dans laquelle nous savons que nous pouvons être agressés absolument partout, ça fait totalement sens parce qu'on est en sécurité nulle part. Maintenant, je pense qu'il y a quand même une chose, c'est qu'il va commencer à falloir travailler sur les causes et non sur les effets. Parce qu'une société clivée comme ça, qui est dans l'urgence et qui est dans une protection finalement qui n'a pas lieu d'être, n'est pas ni ce que nous voulons ni ce que nous méritons à terme.
Ah d'accord, donc vous n'applaudissez pas, vous ne dites pas aujourd'hui la non-mixité, c'est la solution.
Je pense que c'est une bonne solution d'urgence.
D'urgence uniquement.
Mais ce n'est pas une bonne solution à long terme et ce n'est pas un modèle de société qui est souhaitable.
Oui, c'est ça. On est aussi en ligne avec vous, Edith Marie-Jouil, sociologue. Merci d'être là. Ces lieux exclusivement réservés aux femmes, comment c'est perçu par les hommes ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Parce que c'est aussi de leur fait, tout ça. C'est une conséquence.
Oui, je crois que d'abord, aujourd'hui, on parle des lieux où se réuniraient ou se retrouveraient entre elles les femmes. Il faut savoir quand même que la non-mixité, c'est la norme. Hein. C'est la norme déjà dans notre société, c'est-à-dire les lieux de perméabilité, de rencontre femmes-hommes, notamment si vous citez le domaine du sport, par exemple, qui est organisé aussi par la redistribution de l'impôt et par les fédérations sportives. Il y a des équipes masculines, des équipes féminines. Il n'y a d'abord pas toujours des équipes féminines. Hein. Donc l'entre-soi masculin, par exemple, est de mise et de normes depuis déjà des décennies et des siècles. Donc, interroger en miroir, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que c'est une forme de réaction, alors qui s'affiche ou qui est médiatisée. Hein,
mais après, qui ne doit pas être pérennisée.
Mais bien sûr que non, puisque c'est bien l'absence de relation qui fait qu'il y a inégalité et violence. Hein, mais pour établir la relation, il faut effectivement que les hommes aussi entre eux s'organisent pour arrêter les agressions. Quoi,
c'est ça.
Pour dire ça suffit.
Donc voilà. c'est ce que vous dites aussi, Anna Toumazov. Aujourd'hui, c'est aux hommes en fait d'apporter la réponse, d'apporter finalement la solution. C'est eux qui la détiennent.
Je ne sais pas si finalement ce sont les hommes qui la détiennent, parce qu'il y a
aussi une question de...
Ben, face à l'insécurité qu'on ressent, il faudrait que la justice tout simplement fasse son devoir et que le gouvernement nous protège de façon effective. Maintenant, effectivement, je pense que entre les hommes eux-mêmes, qui sont quand même en grande majorité les agresseurs des femmes, en immense majorité, il pourrait effectivement y avoir une prise de conscience. Ouais. Et donc, comme une censure les uns des autres.
À toutes les trois, mesdames, parce que vous êtes trois femmes donc, à nous répondre sur ce sujet. Certains hommes se désolent de cette situation aujourd'hui, de cette non-mixité, ces secteurs donc, séparés, hommes-femmes. Cela revient à dire que tous les hommes sont des agresseurs potentiels et c'est insupportable. Voilà un des témoignages qu'on a pu lire ces jours-ci. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Alors attendez, je vais interroger Valérie Furcage d'abord, qui est dans le studio avec moi, cofondatrice de Colette, l'application.
Ouais, non, l'idée, lorsqu'on a créé Colette, c'était surtout pas d'incriminer les hommes en tant que tels, c'était de se protéger. Alors certes des hommes, mais non, tous les hommes ne sont pas des agresseurs, c'est sûr.
C'est comme ça que reçoit le message, hein.
Peut-être, j'en suis désolée. Le jour où il y aura plus d'agression, on ne vivra plus cette situation. Je prends mes responsabilités. Mmh. Je m'engage à faire en sorte à étendre le service Colette aux hommes avec plaisir. Mmh. Aujourd'hui, la situation ne le permet pas. Donc, je suis désolée pour ceux qui se sentent agressés par notre existence, mais je pense que le problème se situe du côté des femmes.
Edith Marvejoul, sociologue, qu'est-ce que vous répondez à cela ? Et l'autre question qui va avec, est-ce qu'il faut encourager du coup pour l'instant les lieux réservés aux femmes ? D'ailleurs, pas nécessairement pour l'instant, mais est-ce qu'il faut les encourager pour bien délimiter les choses, pour bien délimiter les situations ?
Non, moi je pense qu'il faut rétablir la relation, mais il faut l'établir avec une protection affective, avec en mettant aussi, en réinjectant la puissance publique. Il faut travailler la relation fille-garçon dans les espaces sportifs, dans les espaces éducatifs et sur l'espace public. Après, moi, sur la question des hommes violents, si vous voulez, moi j'ai deux réponses à faire. La première, c'est ces hommes qui réagissent à la non-mixité des femmes, comment ont-ils réagi à la non-mixité des hommes, quoi, entre eux? C'est-à-dire, si les femmes aujourd'hui, elles ne sont pas dans les lieux de pouvoir, dans les lieux sportifs, etc., c'est aussi parce qu'elles ne le peuvent pas, pas simplement parce qu'elles ne le veulent pas. Donc je pense que c'est une vraie question, une vraie réflexion à avoir. Et juste pour finir là-dessus, quand on peut constater que 100% des franciliennes ont été agressées dans les transports en commun, 100%, c'est-à-dire pas une femme y a échappé, hein, sur les études qui ont été menées, ça veut aussi dire que ça se passe pas derrière le fourré, quoi. Ça se passe au milieu de tout le monde. Et aussi avec la cooptation des autres hommes, quoi.
Mais donc, vous l'avez dit, vous continuez toutes, hein, et vous l'avez dit dans ce studio, il faut continuer à défendre la mixité pour autant, bien entendu. Merci beaucoup, mesdames, Edith Marie-Joule, sociologue. Merci, Valérie Furcache, cofondatrice de l'application Colette. Merci à vous.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir avec, dans un instant, la culture, Nathalie Lévy.
Avec Mathieu Charrier qui arrive dans ce studio en courant pour nous dire ce qu'il faut aller voir demain au cinéma. Lambert Wilson sera en ligne avec nous, l'acteur, le vrai, oui.
Votre grand journal du soir, c'est tous les jours jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Et tous les jours, avant 20h, on parle culture. Et tous les mardis, on accueille Mathieu Charrier qui nous donne ses bons conseils cinéma pour la semaine.
Bienvenue Mathieu Charrier.
Bonjour.
On est toujours heureux de vous accueillir. Alors le cinéma, on commence avec Penélope Cruz. Ah, on adore, vous l'avez rencontré, c'est le nouveau film d'Olivier Assayas.
Qui s'appelle Cuba Network. Et le réalisateur français revient sur cette affaire, vous savez, qui a fait la une de l'actualité. On est début des années 90. Des émigrés cubains organisent depuis Miami la résistance contre Fidel Castro. Alors ils planifient notamment des attentats contre les infrastructures touristiques de l'île afin de les tout faire économiquement. Le président cubain qui décide donc de réagir et il envoie plusieurs agents secrets infiltrer ce groupuscule. Ils seront finalement arrêtés par le FBI et jugés par les autorités américaines pour espionnage. Mais c'est eux donc que l'on va suivre. Alors on n'est pas dans un film d'espionnage à la James Bond, hein. Ici tout est beaucoup plus secret, ancré dans le quotidien. Assayas s'attache à suivre plusieurs personnages, dont celui d'un pilote joué par Edgar Ramirez et de sa femme, c'est donc Penélope Cruz.
Normalement, quand vous regardez un film sur les espions, vous pensez surtout à la forme, à une sorte de caricature. Mais Olivier, lui, a fait en sorte de ramener l'histoire à un niveau humain. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces espions, dans leur vie de tous les jours? Comment leur métier affecte leur relation avec leurs filles, avec leurs femmes, leur famille, leurs amis?
Et vous étiez déjà allé à Cuba, vous?
Non, c'était la première fois. Et j'ai été vraiment choquée. En fait, je savais ce qui s'était passé là-bas. Mais quand vous voyez tous ces gens dans la misère, je devais leur poser plein de questions pour comprendre mon personnage et mieux comprendre le conflit avec les États-Unis. Mais quand les gens me répondaient « Désolée, je ne peux pas partager ça avec vous parce que j'ai peur d'exprimer mon opinion », j'étais choquée. Parce que je me disais « On est en 2019 et ils sont obligés de me répondre ça ». C'est dur à entendre et c'est dur à voir.
Voilà, et c'est le double intérêt de ce film construit comme un thriller de plus de 2 heures. Il est d'un côté très pédagogique sur cette histoire des espions cubains, et puis dans le même temps, on voit aussi la réalité de la vie sur l'île, de la pauvreté. Olivier Assayas y tenait, il a tourné près d'1 mois sur place. Cuban Network, voilà, allez le voir, c'est en salle demain.
Elle est bouleversante, hein, apparemment, ouais. Penélope Cruz. Hein, voilà, entre le drame et le thriller, ça c'est pour Penélope Cruz. Deux comédies françaises qui sortent cette semaine, Le Lion et L'Esprit de Famille. On commence par Le Lion, ça donne quoi?
Écoutez, Danny Boone qui se prend pour un agent secret, Philippe Catherine, son psy qu'il libère pour partir à la recherche de sa femme enlevée. Voilà, vous avez compris, ouais. C'est efficace, construit sur ce bon vieux principe. Du duo avec le soumis et le violent.
Inédit quand même le duo.
Inédit en l'occurrence, mais on pense à Depardieu, Pierre Richard, etc. Si vous aimez ce genre de comédie française d'action qui ne s'arrête pas une seconde, n'hésitez pas. A contrario, sort également effectivement L'Esprit de Famille d'Éric Bénard avec Guillaume de Tonquédec, François Berléand, Josiane Balasco. Il y a L'Esprit du Père qui vient de décéder, qui est toujours là. C'est ce ressort scénaristique assez classique du fantôme qui vient hanter les vivants. Il y a quelques jolis moments, mais globalement, ça patine. On trouve le temps un petit peu long.
Et Guillaume de Tonquédec sera avec nous demain dans ce studio. Toujours du côté des films français, vous viendrez lui dire d'ailleurs, mais un petit peu long. Hein toujours du côté des comme films français, Les Traducteurs portés par Lambert Wilson que l'on recevait hier dans ce studio.
Qu'on va recevoir,
d'ailleurs. Oui, qu'on va entendre là dans une seconde. Vous nous rappelez quand même l'histoire d'abord?
Alors, Lambert Wilson est un grand éditeur qui publie notamment un best-seller mondial écrit par un écrivain dont l'identité reste secrète. Pour pouvoir sortir ce nouvel ouvrage en simultané dans toutes les langues, il réunit des traducteurs, l'idée est géniale, dans une sorte de bunker sécurisé par des agents de sécurité bien flippant. Tout est sous contrôle donc, sauf que des extraits commencent à fuiter, une rançon à réclamer. Et évidemment, tous ces traducteurs deviennent donc suspects. On mène l'enquête, nous aussi, parce que ce sont les seuls, en principe, à avoir eu accès au script dans ce bunker sans connexion Internet, sans téléphone portable, sous surveillance 24 heures sur 24. Alors, comment les pirates ont-ils fait? Le scénario est bien écrit et tendu, je vous le garantis, jusqu'au bout, jusqu'à des ultimes rebondissements.
Ah là là, bonsoir Lambert Wilson.
Bonsoir, vous allez bien Nathalie?
Vous avez vous-même, je suis très heureuse de vous avoir en ligne, même si j'aurais préféré vous avoir à côté de moi en studio. Alors, comment c'est quand on lit un tel script? Qu'est-ce qu'on se dit quand même? Cette histoire de bunker, ce script top secret, on y voit clair?
Oui, on y voit clair, d'autant plus que c'est probable et ça a existé dans la réalité, puisque Dan Brown, l'auteur de Da Vinci Code, a utilisé le même principe d'enfermement de ses traducteurs pour la traduction de son livre Inferno, en Italie, dans un château. Donc, c'est basé sur des événements possibles et réels. Et puis, moi, je suis très impressionné par l'imagination et la précision des scénaristes, dont le metteur en scène Régis Ronsard, parce que je suis pas un grand consommateur des whodunit, comme on dit, mais celui-là est vraiment très, très, très bien écrit, très imaginatif.
Et vous connaissiez la fin. Alors, comment on joue un thriller tout en connaissant la fin? C'est difficile, particulièrement difficile?
Je crois qu'en fait, c'est l'activité de l'acteur au milieu d'une pièce de théâtre, d'oublier qu'il connaît la fin. On passe notre temps à oublier qu'on connaît la fin. Disons que dans un thriller, il faut être particulièrement attentif à savoir où on en est dans l'histoire. Est-ce que font les autres autour de vous? Je me suis fait avoir tout bêtement comme un spectateur lambda. C'est-à-dire que quand je l'ai lu, le scénario, je ne pensais pas du tout que la résolution allait être celle-là. Et la résolution, je tiens à vous préciser, on l'obtient dans la dernière minute du film.
Ça, c'est tout l'art, effectivement, dans mon film. D'accord.
Oui.
Juste deux petites questions rapides, Lambert Wilson. Un mot quand même, Ronsard, dites-vous, il possède la sophistication des méchants haut de gamme dans les films James Bondiens. Il aime la métamorphose. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Il est très méticuleux. Il aime beaucoup l'atmosphère des films américains des années 60-70. Il a fait une bande musicale géniale, très inspirée par le jazz. Il est obsessionnel du détail, de l'image. Et c'est vrai qu'au départ, on a l'impression qu'on est un petit peu dans un film à la James Bond. En tout cas, ce n'est pas un genre français. Et la réalisation est époustouflante. Je trouve que le jeu des acteurs est merveilleux. Avec des gens qui viennent comme ça d'univers très différents. On a aussi Olga Kurylenko, la sublime Olga Kurylenko, qui fait la traductrice russe. Ricardo Scamarcio, l'italien. Eduardo Noriega. Tout le monde vient avec... Un monde personnel il a été extraordinaire de précision comme metteur en scène. J'ai adoré travailler avec lui.
Et la suite, ce sera tout à fait autre chose pour vous. Ce sera le film de Gaulle dans lequel vous incarnerez le général.
Vous viendrez
avec grand plaisir. Promis juré.
Je voulais juste dire en passant que vous remarquez comme Penelope Cruz, vous en parliez. Vous avez remarqué qu'elle ne change pas.
C'est ce qu'on se disait en off. Vous voyez, vous aussi, vous avez repéré.
Mais c'est un peu mystérieux quand même.
N'allez pas sur ce terrain-là, pas vous. Merci beaucoup, Lambert Wilson. On a hâte de venir vous voir en salle. Merci infiniment. Mathieu Charrier, un dernier mot sur Jojo Rabbit?
Oui, d'un mot. Écoutez le pitch. Jojo est un petit Allemand que l'on retrouve au début du film dans un camp de la jeunesse nazie. On est en pleine Seconde Guerre mondiale. On lui demande de tordre le cou d'un lapin pour le tuer. Il refuse. C'est comme ça qu'il devient Jojo Rabbit. Ouais. On va le retrouver chez lui. Et figurez-vous que son meilleur ami imaginaire que l'on voit à l'écran, c'est Hitler. Voilà, c'est une comédie qui dénonce les nationalismes, l'endoctrinement, le fanatisme, quel qu'il soit. Et moi, je trouve ça très réussi également. Ouais, Jojo Rabbit.
C'est beau, semble-t-il. C'est beau. Merci beaucoup, Mathieu Charrier. Merci à Lambert Wilson. Et merci à Émilie Mazoyer d'être là. Je vous vois en grand.
Salut,
Émilie.
Alors, Mathieu Charrier, on vous adore. Mais est-ce qu'on peut parler deux secondes de la voix de Lambert Wilson?
Oui. Je ne sais pas s'il faut en parler d'ailleurs.
C'est facile, il est au téléphone. Ça rajoute un petit effet.
Ah, il avait mis un filtre sur Instagram.
Ouais, je crois pas, Mathieu. D'accord. Ça, c'est la jalousie.
Regardez. C'était un moment délicieux.
Merci, écoutez.
Et alors ce soir, on va avoir une autre voix bien connue du public et des amis qui écoutent Europe 1. C'est la voix de Philippe Manœuvre. On va vous parler du plus grand groupe de rock. 1038 musiciens dans ce groupe. Rockin' 1000.
1038 fans de rock devant 51 000 spectateurs. C'est ce qui s'était passé au mois de juin dernier au Stade de France. Ces musiciens tous ensemble, plus de 1000, hein, ont joué donc notamment les White Stripes que vous entendez, mais aussi les Stones, Iggy Pop, etc. Et ils remettent ça, donc toujours avec Philippe Manœuvre en chef d'orchestre. Ce sera le 4 juillet 2020. Il va tout nous expliquer, Philippe Manœuvre, tout à l'heure.
Ah, c'est du lourd, hein.
Ah oui,
ce soir.
Merci beaucoup, Émilie Mazoyer, avec merci. Philippe Manœuvre, donc dans quelques instants. Merci Mathieu Charrier, merci à tous de nous avoir suivis. Ce soir, 18h-20h, votre grand journal du soir avec toute l'équipe au complet. On vous retrouve demain ici même, n'est-ce pas Anissa?
À 18h pétante.
Très belle soirée à tous. Merci d'être avec nous pour écouter Le Monde Changé.
À demain, c'était Nathalie Lévy sur Europe 1.